Je connais cette théorie.
Bienvenue dans la contrebande.
Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
Nom de Dieu.
Ça dirait de grandir.
On est pas bien là?
Ça dirait de grandir.
Tu les sens les coussins d'huile?
Just the same.
Comme le disait le plus grand barde de notre époque, et je parle pas d'Étienne Rodagil et de René Joly, qui ont mis des paroles sur le thème de John Williams, comme disait ce chanteur donc, on a tous quelque chose en nous de Lucasfilm. Cette volonté de prolonger le kiff, ce désir de tous vivre un nouveau rêve de gosse. Ce rêve en nous, avec leurs mots à eux, George, Irvine, Richard, Gigi, Gareth et maintenant Ryan. Obi-Wan, si tu savais. Oui, je l'ai tenté, excusez-moi. Tout le mal que l'on va avoir à faire un classement propre de toute la saga de SF qu'on aime. Perso, c'est 4, 5, 1, 3, 6, 8, Rogue One, 7 et 2. J'espère que vous avez tous noté. Et je sais qu'en disant ça, on m'attendra aux portes du... Bon, voilà. Allez, j'arrête. Je ne pourrais pas débuter cette nouvelle réunion de la contrebande sans citer cette petite dame de 80 ans croisée au cinéma. Elle sortait toute guillerette de Santa et compagnie et me disait que ça y est, elle avait vu son film de Noël et qu'il était hors de question qu'elle aille voir Star Wars. Parce que j'en ai vu, je l'ai vu il y a 40 ans et les bagnoles qui volent, c'est vraiment pas mon truc. Et vous l'avez compris, les bagnoles qui volent sont au programme de cette nouvelle contrebande avec Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. On va donc débriefer du film, de l'avenir de la saga, mais aussi donner nos recommandations sur l'immense univers étendu. Perso, moi, mon objet préféré de l'univers étendu, c'est une magnifique figurine à ventouser à l'effigie de l'amiral Akbar que j'ai eue chez Leclerc la semaine dernière. Mais avant ça, on va faire un petit tour des news ciné qui ont retenu notre attention, ou pas, depuis la dernière émission. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi une fine équipe de Rebel Scums, à commencer par Bastien Rénal. Bonsoir Bastien Rénal.
Bonsoir William Cotin.
Comment ça va Bastien?
Ça va très bien et toi comment ça va William?
Écoute, ça va, j'ai un peu chaud, on a pu enfin attaquer, ça fait plaisir.
Oh, ça fait plaisir.
Content de parler Star Wars?
Oh, ça va être génial.
Ça va être génial, je vois que tu t'es... Ouais, c'est ça, exactement. Et avec moi j'ai Jean-Victor aussi. Jean-Victor,
bonjour, ouais, bonjour. Oui, parce la fête est avec nous, c'est formidable.
Parce qu'on a du public avec nous ce soir, on veut entendre le public.
Ouais. Eh oui.
Génial. Merci, merci.
En fait, je crois qu'il va d'avoir un but là.
Un applaudissement de 10 minutes en folie, c'est super. Comment ça va Jean-Victor?
Ça va très bien, non, c'est parfait.
Alors, il paraît que t'es allé voir le film au 9h des Halles ce matin.
Ouais, je me suis levé plutôt que pour aller au boulot, juste pour aller voir Star Wars. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, j'ai tenté.
Est-ce qu'au moins le... Bon bref, on en parlera après le résultat. J'espère que c'était à la hauteur de tes attentes.
J'ai fait une sieste cet après-midi, voilà.
Ah, j'ai eu pas pendant le film.
Non, pas pendant le film, j'ai bien entier le film, ça.
Et à côté de Jean-Victor, j'ai Lucas. Bonsoir Lucas. Ouais. Et son coussin, son fidèle coussin.
Mon petit coussin, ouais. Ça va?
Ça va, ça va. T'es prêt? T'es prêt de parler Star Wars?
Je suis un peu courbaturé, là, j'ai fait un laser game il y a 2 jours.
Très bien.
Et je suis complètement prêt pour parler de Star Wars.
Un laser game, c'est super, c'est une bonne manière de se mettre en jambes. Et avec nous, on a Cyril. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Epis Nokis.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça, de ton nom, de tes vidéos.
Voilà, sur ma chaîne YouTube et on peut me retrouver aussi sur ma petite page Facebook. Bien je donne super. Des actus. Voilà.
Parfait. Ça va, t'es contente d'être là pour parler de Star Wars?
Ouais, je suis contente.
Je crois que t'es le clan pour ce soir.
Ouais, voilà, je suis pas très très objective. Désolé.
Le voilà. Côté lumineux de la force.
Je vais essayer d'éclairer un peu le discours.
J'ai oublié de rappeler que Jean-Victor travaille pour Clone Web un peu aussi.
Tout à fait.
Oui, on peut te retrouver en papier et dans.
En papier, non, sur
non, en papier, internet, non, mais en papier d'internet.
En papier digital.
Moi, j'ai connu internet en noir et blanc.
Avec le modèle musée.
Et aussi sur, dans le podcast Happy Hour.
Tout à fait.
Très bien.
Frère de podcast.
Le petit monde du podcast indé.
La grande mafia du podcast.
La grande mafia du podcast qui va s'imposer, ouais. Quentin, bonsoir Quentin.
Bonsoir, la contrebande.
T'es content de faire partie de la contrebande?
Ah oui, c'est un vrai plaisir d'être là ce soir avec vous.
C'est vrai, tu vas nous parler de l'univers étendu, toi?
Oui, bah on m'a demandé de venir parler un peu de l'univers étendu et présenter le concept. D'accord. Et aussi glisser quelques petites recommandations.
Ah ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool parce que c'est plutôt vaste, je crois.
Oui, y a à boire et à manger, ouais.
Non, je rigole parce que j'ai complètement oublié de relancer le chronomètre, c'est pas grave.
Ah, c'est moi, je suis pas drôle en fait.
Les coulisses de l'émission
si,
en
si, direct.
Ah, d'accord, ça va, ça
marche. Les aléas du direct.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
On va tout de suite parler, avant de se mettre en jambes sur Star Wars, on va évoquer un petit Cool Nul Osef. C'est une nouvelle rubrique qu'on n'a pas fait depuis le début de la contrebande, mais qu'on inaugure ce soir. Je vais vous passer en revue des news ciné. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez, à savoir si c'est cool, si c'est nul ou si on s'en fout. En gros.
Et voilà. C'est que de la news de qualité. Là,
c'est que de la news de qualité. Bah, après, si c'est des news dont on s'en fout.
On a du gros calibre ce soir.
Donc voilà, c'est les news de l'actu ciné depuis, depuis le dernier enregistrement, en fait. Voilà. Vous êtes prêts ? Alors ça va être bref, hein, ça va, vous n'avez pas besoin de donner votre avis sur le...
C'est un QCM,
oui, non, on s'en fout, au revoir. Non, vous avez un rapide tour de table rapport aux news. Et donc le Cool Nul Osef, la première news, alors c'était une news qui date un peu parce qu'elle date de peu de temps après le premier enregistrement, Amazon qui rachète les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux pour 250 millions de dollars. Juste les droits d'adaptation, bien sûr. Ça n'inclut pas la création d'une série, puisque c'est pour faire une série ou pour refaire des films ?
C'est pour faire une série.
Pour faire une série. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ?
Ça fait peur. Ça fait très peur.
Ça fait peur ?
Tu n'as pas du tout compris le concept.
Mais si, justement, le problème, c'est plutôt que nul, tout est adapté en série maintenant, donc ça fait très peur parce qu'ils adaptent un peu comme ils veulent et il y a des séries qui peuvent être très bonnes et d'autres très mauvaises. Donc si maintenant on fait tout en série, mais juste pour faire du remplissage, ça peut faire très peur.
Bah oui, mais j'ai appris qu'il y allait avoir une série The Witcher aussi. Enfin, ça fait un moment déjà par Netflix.
Oui, ils ont trouvé le showrunner aussi. Là.
Jean-Victor a déjà installé son fusil sniper. Il a tiré en cas de...
Ça va être compliqué, mais non, le Seigneur des Anneaux, t'as envie de leur dire, je sais pas si vous avez connu, il y a 10 ans à peu près, une trilogie par Peter Jackson. C'est un peu compliqué de passer après.
Ils vont pas refaire les livres Seigneur des Anneaux.
Ils vont adapter des
écrits de Tolkien qui ont jamais été publiés, qui se passent entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, en fait.
D'accord.
Ils vont pas refaire les films...
Okay. Ouais. Oui, c'est ce que j'avais compris.
Un petit peu la disquette, mais on verra bien.
Ouais. Moi, vu le pognon qui balance dedans, dernièrement, on parlait de 1 milliard de dollars pour 5 saisons. Enfin, je demande quand même à voir. C'est peut-être un gros spectacle parce que c'est plus que le budget de la dernière saison de Game of Thrones qui va déjà être quand même un truc, je pense, assez impressionnant pour une série télé.
Oui, parce que je pense pas que même Game of Thrones, ça a atteint 1 milliard, si.
Non, mais
c'est 100 millions une saison.
Ce sera dès le début, ce sera plus que le budget du dernier épisode, quoi. Du coup, je pense que ça peut être assez impressionnant.
Moi, je suis un peu dubitatif parce que justement, Game of Thrones, c'est de l'heroic fantasy. Le Seigneur des Anneaux s'en est aussi. Et quand je vois la thune qu'il faut mettre dans Game of Thrones pour que ce soit ce que c'est, d'un point de vue visuel, et alors qu'il y a peu de. L'aspect heroic fantasy, on la voit peu à l'écran. Enfin, c'est très politique, centré sur les humains, etc.
Il y a quelques
dragons. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup plus de créatures. Donc ça doit coûter un bras pour avoir de la gueule à l'écran.
En oreille d'elfe, en prothèse de pied.
Non, mais ça paraît bête, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Et j'ai du mal à voir comment ils peuvent tenir, ne serait-ce que plusieurs saisons, et rivaliser. Enfin, ils vont pas rivaliser comme Game of Thrones, ça se termine. Mais...
Après, Amazon, il y a un peu de thunes. Hein. Enfin, ils peuvent s'en sortir.
Avec le Black Friday, de toute façon, ils sont remplis.
Ouais,
mais de toute façon...
j'ai aidé.
De toute façon, le patron d'Amazon a dit qu'il voulait son Game of Thrones.
C'est un caprice, un peu.
Mais c'est con, parce qu'à la limite, t'as évoqué la licence The Witcher, et pour le coup, c'est un truc que les. Bon, c'est des bouquins polonais qui ont fait une super série de jeux vidéo. Et je pense que là, pour le coup, pour les spectateurs qui sont pas joueurs et qui ont un peu de fantasy, il y a un truc qui est beaucoup plus inédit et pour lequel ils pourraient vraiment faire aussi un concurrent de Game of Thrones plus frais.
Oui,
donc j'espère qu'ils vont mettre du blé aussi là-dedans.
Oui, en plus, c'est plus dark que Game of Thrones. Enfin, en termes de.
Ouais.
C'est le Seigneur des Anneaux.
Quand tu joues aux jeux vidéo, ta moralité en prend un coup.
C'est
5 minutes. Donc, c'est un peu dark. Ouais.
Annonce suivante, on parle d'argent aussi. Là. Une news qui s'est confirmée cette semaine.
C'est capital, le podcast, en fait.
Exactement, c'est challenge. Le challenge, le podcast.
Il n'y a que Élise Lucet, merci.
Non, le fameux merging de la Fox et de Disney. 52 milliards de dollars. Est-ce que c'est plutôt cool,
ça, c'est
plutôt nul ou on s'en fout ?
Là, c'est
dramatique.
Dramatique. En quoi c'est dramatique, Jean-Luc ?
Parce que d'un seul coup, tu as un studio qui détient 40% du box-office. À lui seul, et déjà la concurrence, elle en prend un coup, et tu te dis, les mecs sont surpuissants, sont les maîtres du monde, et vu leur élan pour la créativité qui est de moins en moins, de moins en moins existante, tu te dis, s'ils se reposent sur leur laurier, ça va foutre un sacré coup au cinéma américain.
Moi, ça me fait très peur pour James Cameron, surtout, avec Avatar.
Je pense que lui, il a les coups des francs, je pense que c'est un des rares qui va passer
pour la trilogie, mais il suffit que la trilogie. Et quelques ratés en termes de box-office, et j'ai un peu peur pour les deux derniers, ce que ça pourrait donner après.
Mais celle-là dit avant, de toute façon, la fusion, il disait que si le 2 ou le 3 marchait pas, il n'y aurait pas les 5 4 et 5.
Et pour les prochains épisodes des Simpsons, alors ?
Est-ce qu'il y avait déjà anticipé ce truc-là ?
Oui, qui avait anticipé ce truc-là il y a 15 ans.
Dans un épisode.
Bref, regardez les Simpsons, vous serez dans le turfu.
C'est ça.
Ouais, à mon avis, ils ont acheté la Fox pour récupérer Hulu et avoir pas mal de produits, enfin pas mal de choses à passer sur leur future plateforme pour 2020 là.
Oui, c'est surtout ça le projet, c'est aussi pour ça pour leur plateforme.
Et du coup, ça paraît ridicule les 4 milliards de dollars de Lucasfilm pour avoir Indiana Jones et Star Wars face aux 52 milliards. 52,3, un truc comme ça, milliards de dollars.
Tu peux t'acheter quelques films avec ce.
Je te fais un Black Friday avec ça, mon gars.
Cyril.
Non, d'après ce que j'avais entendu aussi, c'était pour réunir le plus de héros possible dans les films de super-héros. Il y a notamment Ryan Reynolds qui a eu très très peur en entendant cette nouvelle. Et il me semble, hein, j'ai cru entendre ça, que du coup Disney avait dit que Deadpool resterait quand même dans son univers rated R, et que du coup ils allaient faire une partie de leur film toujours rated R pour les gens qui en demandent, et des films comme Deadpool qui ne peuvent pas être autrement parce que le personnage est comme ça. Et qu'il y aurait aussi la partie Disney comme on la connaît, quoi.
Oui, bien sûr. Puis il y a aussi, ça inclut Alien et tout aussi, qui sont pas des films spécialement.
Alors s'ils peuvent foutre dehors Ridley Scott de cette franchise là, ça m'arrangerait quand même.
Laisse-le, il est vieux.
S'ils peuvent la laisser tranquille cette franchise.
C'est crevé, mon dieu, là c'est souffert, on n'en peut plus.
Bon, donc du coup c'est plutôt nul, on est d'accord là-dessus. Hein, ça fait peur plus qu'autre chose.
C'est effrayant, mais parce que surtout, enfin pour moi la Fox c'était un peu genre le dernier bastion des films de super-héros, parce que cette année ils avaient quand même sorti Logan. Enfin, je trouvais que c'était un super film, et je vois pas comment Disney pourrait sortir un film comme ça aujourd'hui, quoi.
Il y aura Wolverine dans Avengers 4, de quoi tu parles?
Voilà.
Enfin, ça va.
Ah oui, c'est vrai qu'ils sont tous ensemble. Bah oui, c'est
ça. Et s'il laissait faire comme il laisse faire un petit peu Pixar quand même?
Ouais.
Et s'il laissait faire?
Est-ce que
en fait la Fox c'était juste la tranche adulte de tout ce qu'ils font, et que voilà. Marvel, il y aura les vannes, dans Star Wars, il y aura les vannes, parce qu'effectivement, le dernier Star Wars dont on va parler, il y a beaucoup de Marvel dans l'humour, dans tout ça. Et que du coup la Fox soit un peu la limite la tranche adulte de Disney, quoi.
Ouais.
À nos films adultes, on les sort sous les tendons de la Fox. Ça, on va le développer avec la Fox. Donc,
toi, Lucas, tu penses plutôt qu'on...
Au début, j'étais un peu...
Effrayant que ça ?
Non, si, de base, j'étais un peu alarmé, parce qu'effectivement, l'hégémonie d'un studio dans une industrie, c'est un peu flippant.
Puis il a reçu un chèque de Disney.
Voilà.
Oui, c'est ça. Les chaussettes nickel.
Et puis des oreilles, etc.
Donc, autre news, pendant que Thor Ragnarok cartonne, donc on en avait parlé dans le podcast de la première contrebande sur le MCU, sur les univers partagés, machin. La dernière fois que j'ai regardé, 800 millions de dollars au box-office.
Je crois que c'est à 832.
832 ouais. Ça va, ça se passe bien pour
ça. Ça se déroule comme prévu.
Voilà. Il y a la bande-annonce de Infinity War qui est sortie. Donc, Beginning of the End, Part 1, Introducing the Big Bad Guy, qui a battu le record du trailer le plus vu en 24 heures, avec 230 millions de vues.
C'est pas vrai.
Est-ce que vous avez vu le trailer?
Bah oui.
C'est comme tout le monde, je pense. C'est ça.
Bah voilà, tu fais partie des 230 millions de vues. Bravo.
De toute façon, tu ne peux pas le voir, vu que la semaine de sa sortie, tu allumais YouTube, il te le mettait direct. Genre, regarde ça.
Les pubs que tu pouvais pas la skipper, en fait, t'avais 2 minutes 30 avant tes vidéos, tu allais voir n'importe quel clip de Ed Sheeran ou je sais pas trop quoi, et ils te mettaient les 2 minutes 30 du teaser, tu pouvais pas skipper, c'était pas possible.
Ouais, après, donc ce record forcé, quoi.
C'est pas étonnant. Oui, je pense que c'est forcé. Moi, je me souviens que le jour de sa sortie sur YouTube, sur Facebook, je pouvais pas défiler, scroller sans avoir cette bande-annonce. Au final, tu étais obligé de te dire, allez, je clique sur play.
Faut que tu changes d'amis, ça c'est un autre problème.
Et non, mais c'est même pas forcément des amis, tu vois, c'est des pages, des pubs même.
C'est des bouche-trous, c'est pas des amis.
Alors du coup, le Thanos qui change de look 4 fois depuis le début, c'est...
C'est parce qu'il est un peu délavé avec le temps. Parce qu'il fait dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de lumière.
Ça fait 10 ans qu'il attend.
Mais j'étais moins choqué que tout ce qui court en slow motion devant un fond vert à la fin...
Hey, pour faire le troupeau là,
pour faire le rank, genre l'assaut.
Ouais. Ça va être génial.
Donc ça va être génial. On est hypé là. Je vois tous là.
Non. Déjà de base dans les images, tu sens que ça va être un peu compliqué de réunir tout le monde sur, j'imagine, 2h30 de film.
Oui, sûrement. Ouais.
On va taper 3 tant qu'à faire.
3 heures, tu penses?
Ils sont censés qu'en gros la partie la plus dramatique et la plus vénère de cette histoire là, ça sera dans Avengers 4. Ce qu'on a dit, Infinity War, c'est la partie 1.
Partie 1, ouais.
C'est qu'ils vont faire comme Harry Potter. Je pense qu'il finira le film avec le gant de l'infini. Et en fait, on reviendra pour voir la baston. Donc, voilà.
Bah, j'écoute une émission qui s'appelle Les Clairvoyants. Je sais pas si vous connaissez. C'est une émission qui parle du MCU et voilà. Et ils parlaient du fait que peut-être ils allaient faire une espèce de Thanos Begins pour cette Infinity War. Et que c'était genre, ça allait être Thanos le héros de l'histoire, en fait. Et que, enfin, peut-être.
De toute façon, si tu regardes la progression de l'univers, etc., le but, c'est qu'il ait toutes les gemmes sur son gant. D'ailleurs, dans le trailer, on voit
en oui, il en met une sur son gant.
Et bon, j'imagine bien qu'il aura son gant complet au bout d'un moment, donc ce sera la deuxième partie, quoi.
Ouais. Bah oui, du coup, que ça se finirait en mode Thanos a gagné à la fin, quoi.
Ouais, avec, je te dis, ça finirait comme
avec la baguette de Sureau, quoi.
Comme la baguette de Sureau dans Harry Potter, ouais.
La baguette de Sureau, très bien.
Tu t'en souviens, c'est déjà énorme.
C'est bien. News suivante, du coup, on a vu un autre trailer aussi, du coup, Jurassic World 2. D'après le trailer, Jessica Chastain, Larousse.
On parle de quoi?
C'est pas la bonne personne là.
Non, c'est
Brice
Dalasso.
Ah, tu fais référence à la petite vidéo de
parce qu'ils sont. Oui, j'attendais que tu réagisses, Lucas.
J'ai rien compris.
Non, mais il fait référence à la petite vidéo sur internet où t'as un couple qui s'amuse à faire des petits montages YouTube et dans le couple, la fille elle chante super bien et elle a pris des images, elle a fait un montage, elle a fait un super cut de plein de films dans lesquels elle joue Brice Dallas Howard et elle chante genre I'm not Jessica Chastain.
Ah oui, d'accord.
Tu vois? Et c'est pour le coup très 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 drôle et genre les deux actrices, Chastain et Dallas Howard, c'était pris au jeu et fait référence sur des plateaux télé et tout, etc. Et c'était assez drôle.
Voilà. Merci Lucas.
Non, c'était
pour expliquer les blagues de Fulham.
Sinon, tout le monde est perdu.
Sinon,
hein.
C'est un peu un gros F, même si c'est quand même Bayona qui réalise Spielberg lui a demandé de faire le film.
Ça, quand
dans le teaser, il y a une petite plus-value quand même par rapport au précédent.
Ça se sent.
Mais ça l'a.
Bah, le scénar a l'air complètement gogol. Ça a l'air débile.
C'est le scénar dans le bar et tout. Genre, t'as un mec, nananana. Et puis, faut qu'on aille sur l'île parce que l'île va exploser et tout le monde va mourir. Bon. D'accord. Donc là, ils se cachent bien plus de nous refaire le même film. Et...
Après, ils ont dit que, apparemment, c'est juste les 50 premières minutes du film dans le trailer.
Ouais, dans le trailer. Coup, c'est
apparemment, ça en cache.
C'est Trevorrow qui s'est vanté de ça sur Twitter. Ouais, c'est que les 57 premières minutes.
57
ouais, il était très précis. 57
minutes,
sera...
57. Là, c'est bon, c'est nouveau.
Le film fait 1h20.
Et du coup, c'est toujours Universal, c'est ça?
Oui.
Du coup, Bayona, moi, j'achète.
C'est ça, parce que Bayona, c'est un réalisateur qui, un peu comme Spielberg, va réussir à faire passer des choses, surtout au travers de son découpage et de.
Il a fait quoi d'autre, Bayona?
Bayona, il a fait surtout un film cette année qui est sorti quelques minutes après minuit.
Voilà.
C'est un excellent film qui nous a bien fait pleurer.
L'orphelinat is impossible
qui était formidable aussi. Mais bien pleuré aussi.
Moi, quand j'entends Bayona, je pleure de ouf.
Du coup, on va pleurer devant Jurassic World ou
pas? Mais s'il y arrive, moi je dis chapeau parce que là, on part de très loin quand même.
Putain, on avait dit pas le T-Rex.
Oh, je pense qu'il a pas, il avait pas trop d'autres choix si après qu'on lui propose.
Après c'est logique. C'est un succès assuré avec ça et après il pourra faire ce qu'il veut avec un peu plus de pognon.
Un Star Wars.
Tout
ce qu'il veut après de toute façon. C'est ça le deal. Hein.
Je pense que c'est ça. C'est comme ça qu'il avait présenté parce que j'avais été voir quelques minutes après minuit au début de l'année en avant-première. Il était là et du coup quand quelqu'un lui a posé la question pour Jurassic World, il avait dit oui. Quand Spielberg vous appelle pour faire Jurassic Park, ben on dit oui quoi.
Je l'avais présenté comme ça. J'étais à cette séance aussi.
Oui,
ah bah. Même l'année dernière, au mois de décembre, de novembre 2016.
Tu m'inquiètes, tu me suivais.
Il a dit que c'était Spielberg lui-même qui lui avait demandé.
Ouais, c'est ça. Il a dit bah ouais, je viens quoi.
Pas le choix.
Tu peux traîner avec ton idole.
C'est ça. Donc il n'était pas emballé plus que ça, mais il sentait qu'il fallait passer par là quoi.
Non, puis je pense qu'il s'amusait parce que visiblement ils avaient beaucoup d'animatroniques sur le plateau, etc. Donc forcément, quand tu vas tourner un gros T-Rex devant toi avec une caméra, tu dois te fendre la gueule un petit peu quoi.
Clairement.
C'est bien ça, ils s'amusent bien. Ils font des films pour eux, des films
avec des petits dinosaures.
À 200 patates.
Bah, c'est con, rigole, eh ben, écoute, c'est sympathique.
On est contents pour eux. Bah, ils ont bien raison.
Ils en sont arrivés là, ils ont galéré, bah, c'est très bien. On est contents pour eux. C'est super. Bon, allez, on continue sur l'autoroute des trailers avec Ready Player One. On parle de Spielberg.
Ah non.
Ah oui.
Ah non.
Non, mais moi, je ne l'ai pas vu.
Ah non, tu ne l'as pas vu.
Je ne veux pas le voir, justement.
C'est vrai, tu veux voir aucune image, c'est ça? Tu veux pas te spoiler?
Ouais. J'aimerais vraiment être surprise.
D'accord.
Par ça, parce que...
Tu n'as pas lu le bouquin, donc?
Si.
Si?
Si, mais j'ai pas envie.
Surprise, du coup.
Mais oui, mais en fait, moi, c'est tout le problème d'une adaptation. C'est quand tu lis. Moi, j'aime beaucoup lire le livre avant parce que j'aime bien me faire mes propres images et j'ai pas envie qu'on m'en impose.
Bien sûr.
Donc, je me crée mes propres images et j'attends d'être surprise par celle qu'on va me proposer ensuite.
D'accord. Donc, tu veux voir aucune image avant de voir le film?
Voilà.
D'accord. Et moi, le livre m'était tombé des mains, à titre personnel. Mais je crois que c'est.
Il a glissé? Tu l'as ramassé?
Ouais, je l'ai. Mais en plus, j'ai pas emprunté à la bibliothèque, figure-toi, il faut pas que je l'abîme en plus. Mais enfin, bref.
T'avais moyennement aimé le bouquin, c'est ça?
Je l'ai pas fini, c'est pas très
bien écrit, c'est super intéressant, mais c'était pas.
Ouais, c'est pas hyper bien écrit, mais c'est hyper efficace, hein, ça le dit tout seul, hein, franchement. C'est...
Bah, moi, ça, vraiment, j'ai trouvé. Après, je sais pas si c'est parce que c'est la traduction ou. Moi, je me suis dit, c'est peut-être qu'il est mal traduit. On dirait une espèce de fanfic bizarre. Enfin, je sais pas, c'est. Je sais pas.
Spécialiste des traductions aussi.
C'est un peu la réputation que ça se traîne avec le bouquin intéressant, mais que le mec n'est pas un style littéraire.
Ah non, c'est pas hyper fourni d'un point de vue littéraire.
Moi j'avais lu une page où il citait la suite K2000 et Retour vers le futur, et c'est que la page n'avait pas du tout envie de le bouquin.
Il y a des passages un peu name dropping de temps en temps, mais.
Dès le début. Dès le début du film.
Ouais.
Du bouquin. Ernie Klein, c'est Ernest
Klein.
Qui du coup est en train d'écrire le deuxième.
Qui était le scénariste du film, scénariste de Fanboys, film. petit film.
Ah, oui, qui est rigolo.
Ouais. Qui était accroché tous les wagons.
Et je me ramène toujours à notre sujet principal. Hein.
Mais sinon, le trailer, c'est quand même une grosse rouste. Hein.
Ah oui,
ah oui, trailer, ah oui, si on revient au trailer.
Sans spoiler, du coup, pour ceux comme Cyril qui ne veulent pas.
Qui mettent un gros coup de pied au cul à la culture doudou, au Stranger Things, tout ça, mes couilles.
Alors, est-ce que vraiment, est-ce que d'après le trailer, parce que moi, c'est ça, c'était toi, je crois, j'avais vu un Jean-Victor, du coup, parce que je te pointe du
doigt. Je ne suis pas dans le trailer, arrête de me pointer du doigt.
Non, mais c'est pas toi qui disais que tu n'avais pas tweeté un truc en disant que ceux qui parlaient de culture doudou en voyant ce trailer-là, ça allait... Non,
j'ai peut-être dû répondre à quelqu'un qui en parlait, effectivement. Ouais. Mais bah, après, encore une fois, je n'ai pas lu le bouquin, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un peu le propos du livre sur une espèce de génération perdue parce qu'elle n'a plus de mythe moderne. Elle ne cesse de vivre dans le passé.
C'est tout à fait ça.
Et ce qui est un propos hyper intéressant, et surtout que Spielberg, bah, je crois qu'il est énormément cité dans le livre.
Ouais.
Et après, il a coupé toutes les références à ses films dans,
c'est ça, ouais,
dans son
c'est...
film.
Ouais.
Et
à part les films où il était producteur, sinon il n'y avait plus rien dans le bouquin.
Oui, mais c'est film dont il est réalisateur, ouais. Et ça serait intéressant de voir justement ce mec-là qui a quand même été à la base d'énormément de nostalgie, parce que bah, voilà, on parlait de Jurassic Park il y a 5 minutes, etc. Et voir ce mec-là s'attaquer à ça et voir s'il va vraiment prendre le taureau par les cornes et en parler, quoi.
Je pense qu'il n'y a pas mieux placé que lui pour faire
ah oui, non,
ce
film.
Ouais. Je pense, pas, j'ai pas lu le bouquin, mais par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est de la personne la mieux placée pour adapter ça et nous parler de cette culture, du coup.
Oui, c'est clair que c'est un peu de lui dont on attend la vie, en fait, sur cette histoire de voilà, culture doudou dont tout le monde s'inspire et tout.
Ouais, c'est quand même le type qui avait annoncé il y a quelques années avec George Lucas la mort du blockbuster, et sa théorie est en train de se confirmer au fur et à mesure. Mais ouais. Donc, c'est, voilà, revoir son avis là-dessus dans un film de 2h30 qui risque de nous en mettre plein la gueule, je pense que ça va être pas mal.
Après, un mois après The Post.
Oui, parce que du coup, il y a.
En un mois, c'est génial.
Quand tu m'as fait faire des deux à la suite, c'est assez incroyable parce que tu te dis putain, c'est le même type qui fait les deux et
ouais,
ça a l'air d'avoir rien à voir. Quoi.
C'est diamétralement opposé.
C'est 75 ans,
je crois, genre, je viens pour Mad Max. Là,
ouais,
c'est le ça, vieux.
70 balles. Ce poste, c'est tourné et monté en 4 mois. 4 mois apparemment.
Ouais, c'est
impressionnant. Impressionnant. Le mec, je sais pas, il dort pas.
Le trailer, tu sais, les plantes en colline, quoi, parce que c'est super bien filmé.
Le talent. Donc plutôt cool, on attend ça.
Ah oui,
très bien. Et ça, c'est nous ce que toi tu as rajouté, Bastien.
Ouais, te plaît pas, c'est ça que t'essaies de dire.
si, mais tu rigoles en plus, je t'avais pas vu. C'est encore un trailer du coup. Annihilation, film d'Alex Garland.
Est-ce que tu peux le dire correctement, s'il te plaît?
Annihilation.
Merci.
Annihilation. Okay. Annihilation. Très bien. Film d'Alex Garland de SF avec Natalie Portman, Oscar Isaac. Donc Alex Garland, c'est celui qui avait fait Ex Machina.
Tout à fait.
Et c'était le scénariste de 28 jours plus tard.
Aussi, et de Sunshine ouais. aussi.
Et Sunshine, ouais.
Ouais, enfin, mais vous avez vu Ex Machina?
Oui, bien sûr.
Il est magnifique ce film.
Avec Poe Dameron qui danse.
Ouais,
qui fait l'Oscar des effets spéciaux d'ailleurs, je
crois. Et
Ox. Ouais, c'est ça.
Et Lara Croft.
Ox. Ox, oui, c'est vrai. Oui, du coup, c'est le prochain réalisateur de Star Wars aussi, lui, Alex Garland. Non,
on lui souhaite pas.
C'est sur une maladie, c'est
ce qui se propose. On sait plus, toi,
Non, parce que dans Ex Machina, il y avait tous les acteurs qui étaient pas encore assez chers à l'époque et qui maintenant ils pourraient plus tourner. Parce que du coup, il y a ouais. Écoutez, ouais. Mais vous l'avez vu le trailer de Annihilation?
Moi, j'avais vu le premier parce que là, c'est le deuxième, il me semble, qui est sorti. Mm-hmm. Et il y a pas justement toute une histoire sur la distribution comme
quoi
le film.
C'était ça, la base que j'avais écrit, mais t'as pas tout lu.
Ben non, j'ai mis le film. Ah oui, mais non, mais c'est l'histoire de Netflix.
Oui, c'était ça.
Oui, mais d'accord, mais j'attendais de savoir si les gens l'avaient vu.
Faudra qu'on discute, William, ça va pas du tout, ça.
Pardon. L'histoire, c'est que le film sort aux États-Unis en salle.
C'est ça. Dans tous les autres pays du monde, il sortira directement sur Netflix.
Et après, en fait, l'histoire de comment est-ce que le film a atterri sur Netflix, c'est un problème de. C'est une embrouille entre producteurs sur un mec, a priori, qui a mis des billes dans le film et en fait qui s'est rendu compte que ça lui plaisait pas et voulait retoucher au montage. Et les mecs se sont embrouillés. Et suite à cette embrouille, en fait, la distribution a priori du film était un petit peu en péril. Et du coup, bah, ils se sont dit, vas-y, on balance un Netflix.
Et ben voilà. C'est la solution.
Pour que le final cut soit assuré et que le mec fasse vraiment le film qu'il veut. Quoi.
Le Joker Netflix.
C'est bien, ça rapproche un peu ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Victor, sur ce que disait Lucas et Spielberg il y a quelques années sur la mort du cinéma. Avec un film comme ça qui a l'air assez gros, avec des acteurs qui sont quand même pas mal au top en ce moment. Un réalisateur qui a fait un film d'avant qui a été pas mal publicité quand même.
Oscar,
qui se retrouve, ouais, c'est ça. Et qui se retrouve direct sur Netflix. Ça fait un peu peur.
Bah oui, mais je trouve. Est-ce que ça. Comment ?
Par ça, le film.
Le film a l'air bien en plus.
Et bien, un dernier cool news que personnellement je trouve nul. Oui. Arrêt de la chaîne YouTube Every Frame a Painting.
Ah, oh oui, c'est
triste, ouais.
De Tony Zhu et Taylor Ramos.
On peut rappeler
Cyril
peut-être.
Cyril vient de l'apprendre là en live.
Bah ouais, non, je savais pas, mais
c'est
pour
vrai
quelle raison ?
On peut peut-être d'abord, avant tout, peut-être rappeler ce que c'est. Peut-être.
Bah, vas-y, je t'en prie, Bastien.
Je ne connaîtrais pas.
Après toi.
C'est une... Ce sont des Américains. Il me semble qu'ils sont Américains.
Oui. Australiens, non ? Je crois que c'est des Australiens.
Enfin, des... ils parlent l'anglais, quoi.
Bref, c'est des anglophones.
Ouais, des anglophones.
Ils parlent pas français.
Qui ont une chaîne YouTube où ils font des vidéos d'essais sur les films, surtout des plus ou moins des films récents et vus, tant qu'à faire.
Et d'analyse.
Par des gens. Et ils analysent les films, et c'est très très intéressant et c'est très très bien fait.
Sur des thèmes, tu...
sur des thématiques, oui, pardon, sur des thématiques assez précises. Leur dernière vidéo, il me semble que c'est sur la musique dans les Marvel.
Ouais. Exactement. Marvel Symphonique Universe.
C'est ça, tout à fait. Qui était fortement génial et que je conseille à tout le monde d'écouter.
On vous conseille fortement d'y aller.
Je l'ai pas fait.
Non, c'est vrai, c'est vraiment une super chaîne. Ils avaient notamment fait une vidéo sur. Sur le découpage de David Fincher, et le mec expliquait en quoi David Fincher est un des derniers réalisateurs qui fait vraiment son travail et en quoi chaque plan en fait, explique des choses. Et en fait, il faisait juste l'analyse d'un dialogue dans Seven et c'était mais brillant l'analyse. Et effectivement, en fait, sa vidéo était hyper parlante. Et il peut aussi bien faire une vidéo sur le mouvement chez Kurosawa où il en profite pour se foutre de la gueule de Joss Whedon. Donc voilà, c'est vraiment des mecs bien en fait, on les aime beaucoup.
Mais ils ne sont pas fait racheter par Disney, enfin, c'est pas pour ça. C'est
Ah d'accord. L'avenir nous le dira. Non mais en tout cas, on vous recommande encore Everyframe Painting, c'est une chaîne qui a duré 3 ans. Il y a une trentaine de vidéos en fait, il n'y a pas tant de vidéos que ça en plus.
Au début, c'était quand même assez prolifique.
Ouais.
Bah, il y a vraiment des vidéos, comme disait Jean-Hinter, magnifiques. Le plan d'ensemble chez Bong Joon-ho, le sens de la comédie chez Terry Jones, ou l'humour d'action avec Jackie Chan, ou Nick Frost, et Yao Wright. Kurosawa, c'était magnifique cette vidéo.
Oui, c'est des vidéos très fournies, donc même si on n'a pas des masses, et je pense que quand on aime vraiment le cinéma, ça peut que nous enrichir ce genre de vidéo.
En plus, c'est très ludique à regarder, c'est jamais académique et chiant, quoi. T'apprends des choses.
Oui, bien sûr.
Leurs exemples sont super parlants, enfin, vraiment, c'est hyper bien fait, quoi.
Le chant contre chant chez les frères Cohen aussi, je crois. Non.
Il en a encore 17 à citer. Voilà. Et on a fini. Mais bon, par contre, du coup, c'est full anglais. Hein. Enfin, c'est full anglais. Et du coup, je crois qu'il y a des sous-titres.
Non, il y a tellement de fans qu'il y a des gens qui ont fait des sous-titres.
Les sous-titres sur YouTube, tu cliques sous-titres français. Donc voilà pour ce cool nul, Osef. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on fera ça, on essaiera de faire ça à chaque
fois. C'était super, William, j'ai beaucoup aimé.
Merci, Bastien. C'est pas à toi que je demandais, mais merci. Bon, on va passer au gros morceau maintenant. Ben oui, il est temps, il fait nuit, il pleut. Je crois que c'est l'ambiance, la bonne ambiance. On passe à Star Wars, épisode 8, The Last Jedi. Oula. The Last Jedi. On dit pas Jedi.
Du coup.
Ouais, c'est un variable. Ouais, c'est variable. Ça. Les derniers Jedi en français. Et d'ailleurs, Lucas me faisait remarquer la dernière fois quand on allait le voir le film, c'est qu'ils disent plus épisode 8. C'est plus écrit.
C'est dans le déroulant au début.
Ah ouais ?
Ouais, c'est écrit même pour le 7.
Ouais.
Mais c'est pas sur le titre.
C'est pas sur l'affiche, ouais.
C'est pour pas perdre les gens qui veulent aller voir. Quoi, l'épisode 8, il y a eu 7 films à voir avant.
Oh merde !
Waouh !
Merde, 8 si on compte 3 mois de 8. 2h30 chaque film. Et non, parce que c'est le plus long.
Ça se voit d'ailleurs. Oui.
Alors.
J'ai craqué.
Épisode 7. Non, là, on va parler d'épisode 8, mais là, je vous parle d'épisode 7. Épisode 7, Le Réveil de la Force, qui est sorti il y a 2 ans, qui reprenait du coup la saga laissée par George Lucas avec l'épisode 3. C'était quand l'épisode 3
2003.
Ah ouais
2004.
Ah ouais
2003,
c'est de l'époque du Seigneur des Anneaux.
Ah ouais.
Bon bah ouais.
Là, ça fait mal.
On a préparé le dossier donc.
Ouais, il me semble qu'il y a une année où il y avait eu Matrix, le Star Wars et le Seigneur des Anneaux la même année. Je crois que c'est 2003.
Donc ouais, du coup ça faisait plus de 10 ans que Star Wars n'était pas revenu sur les écrans. Donc du coup entre temps il y a eu Disney qui a racheté Lucasfilm. Tout de suite après une annonce de nouveau film. Je crois que c'était tout de suite après. C'était pas avant.
C'était après.
C'était pas quasiment simultané, genre une semaine d'intervalle.
Oui, c'est ça. Il y a eu peu de délai entre les deux.
Ils en pouvaient plus les mecs. Ça fait un peu éjaculateur précoce. Genre on a acheté, on balance, on fait le feu, c'est parti, nouvelle trilogie, feu.
J'ai une vision de Mickey, ça me dit. Mais donc du coup épisode 7, le réveil de la force qui nous présentait des nouveaux personnages, Rey qui était le Luke Skywalker féminin qui vivait sur une planète qui s'appelait Jedha. Jakku. Non pas du Jakku. Tout Jedha, Jakku. Jakku. Jedha, oh là là. C'est dans Rogue One. Bon, bref, vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de choses. Épisode 7 qui avait mitigé, enfin de ce que je me rappelle, la vie générale. Le 7, c'était pas dithyrambique les critiques sur le 7 si, bah, à la sortie.
Ça l'était au début, puis c'est ça. Petit à petit, ça s'est un peu cassé la gueule et j'ai l'impression qu'on va faire exactement la même chose avec The Last Jedi pour le coup.
Est-ce qu'on va pas faire pareil en accéléré? J'ai l'impression.
Est-ce qu'on n'est pas dans le turfu en fait?
Est-ce qu'on vous parle pas du futur? Mais du coup, ouais, l'épisode 7 qui avait pas spécialement remporté des énormes critiques. Cyril, tu voulais dire un truc?
Moi, je l'ai aimé.
Oui, mais tu as
non,
le
mais
droit.
Je pense que les gens ont été très... Enfin, les fans, surtout, ont été très, très, très exigeants avec le set. Et du coup, je comprends leur réaction. Mm-hmm. Mais je pense encore que les gens étaient trop durs avec ce film.
D'accord. Ouais, du coup, il y avait cet effet
vu
de...
Vu le 8, ouais, effectivement, ça relativise un peu le 7.
Ça commence. Ça parle mal, direct.
Bon, du coup, on a eu le 7 il y a 2 ans. Rogue One, parce que là maintenant on nous a annoncé qu'il y aurait un Star Wars par an. Enfin, on nous l'a annoncé dès l'épisode 7 en fait qu'il y aurait un Star Wars par an. L'épisode 7 était réalisé par J.J. Abrams. Rogue One qui a suivi, réalisé par Gareth Edwards. Gareth Edwards, oui.
Un peu de Tony Gilroy aussi, je crois, dans le
temps.
Un peu
de Tony Gilroy, oui. Ouais, qui est venu
à la rescousse, à merder, ouais. Soutien, ouais. Le début des emmerdes.
C'est ça.
Et cet épisode 8 qui est réalisé par Rian Johnson, mais c'était pas le cas au début. C'est ça? C'est lui?
Non,
ça devait déjà être lui. Si, ça devait être lui.
Tu l'as préparé, cette émission?
Les gens qui nous écoutent doivent se dire, putain, ils connaissent
attendez,
rien.
Attendez, mais
le 8, c'est le seul qui s'est bien passé de tous les films.
Oui, effectivement.
C'est le seul où il n'y a eu aucun problème, où c'était, ils étaient en parfaite osmose entre la réalisation et la production.
Kathleen était ravie.
Kathleen était ravie, ils ont fini le film il y a 3 mois.
Maître Kathleen était ravie, du coup, tout va bien.
C'est qui Kathleen? Le 9.
Kathleen Kennedy,
la chef de Lucasfilm, la nouvelle chef.
C'est pour le 9 qu'il y a eu des soucis, que le réalisateur était viré, alors je ne sais plus. C'est Colin
Trevorrow. Il y a aussi Josh Trank qui ne pourra pas faire son film sur Yoda. Il y a aussi Phil Lord et Chris Lord et... Enfin, Miller, Lord et Miller. Merde.
Les mecs des Lego qui sont partis de...
Ils sont partis de Han Solo parce que bah ils avaient envie de faire des choses qui leur ressemblaient, on les a pas laissé faire et du coup après on va tourner trois quarts du film mais qui ont été remplacés par Ron Howard.
Ouais, ils ont arrêté au bout de 6 semaines de tournage.
Qui a tout repris depuis le début.
C'était 3 semaines de tournage.
Il restait 3 semaines de tournage.
Ils avaient tourné 80% du film.
Ah, c'est impressionnant quand même.
D'ailleurs, et en fait, selon la petite histoire, il y a une loi aux États-Unis par la DGA, la Directors Guild of America, qui implique qu'à partir du moment où tu as tourné 85% d'un film, c'est très précis, légalement, en fait, t'es protégé et t'as le final cut. Enfin, en tout cas, voilà, tu mets ton pied dans la salle de montage, tu termines le film. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils allaient atteindre les 85% et que s'il fallait faire quelque chose, c'était maintenant.
Donc Kathleen, elle a tout coupé.
Donc Kathleen, elle les a virés pile avant qu'ils passent la limite.
Sacré catoche.
C'est chier.
C'est pas très fair play, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un tacle glissé.
Mickey prend un coup là de suite. Hein.
Oui, voilà, bah oui, Mickey, on va lui faire sa fête ce soir, je pense. Du coup, épisode 8 qui est sorti le 13 décembre, cette semaine. On est tous allés le voir pour cette contrebande.
Jean-Victor s'est levé à 7h du matin, c'est important de le rappeler.
Voilà, c'est important de le rappeler.
Ouais. Jean-Victor l'a vu aujourd'hui même.
Pour résistance totale.
On va faire un petit tour de table, rapidement, votre avis sur le film. Ça applaudit.
On a un public un peu de temps, mais il est là, il est présent.
Rapidement, Jean-Victor, qu'est-ce que t'as pensé du film?
Ah putain, c'est moi qui commence.
Ah bah c'est toi qui parlais, t'es allé le voir ce matin, c'est tout.
Bah écoute, en plus je me suis levé avec une petite gueule de bois et je me suis retrouvé dans un film avant le film, et je suis arrivé et j'ai retrouvé des vieux copains qui avaient aussi un peu la gueule de bois. Et non, en fait ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'il y a pas mal de critiques qui parlent de renouveau, d'inédit, etc. Et pour moi c'est la suite logique de l'épisode 7, c'est-à-dire que c'est en noie un petit peu mieux le poisson. C'est moins un remake littéral où on refait les mêmes scènes au même moment. Là, ils ont mis la scène du début de l'Empire contre-attaque à la fin de celui-là en mode ouais, vous avez pas vu, putain, on est des génies. Mais en gros, tu regardes le film, tu fais mais putain, je l'ai déjà vu. Et j'ai passé 2h30 à dire mais je l'ai déjà vu. Ça te raconte exactement ce que te racontait Star Wars auparavant. Et voilà, je me suis un peu fait chier. Voilà, c'est une belle machine bien huilée, mais assez vide en fait.
D'accord.
J'essaie de faire vite.
Non, mais t'as fait très bien.
Alors moi le 7 m'avait un peu glissé dessus, un peu comme de l'eau, enfin j'avais pas trop quoi en penser. Le 8, pardon, excuse-moi, je suis complètement fatigué. Le 8, j'ai trouvé le 8 un peu plus audacieux en fait, mais il essaye des choses que faisait pas le 7. Et non, je suis perdu.
je sais pas ce que tu penses, je regarde pas.
Ouais, je suis complètement perdu.
Tu veux qu'on refasse
Non, enfin si, ouais, vas-y.
Ouais. Tu veux que je passe à quelqu'un
plutôt que parce que j'étais complètement ailleurs.
Non, non, mais il n'y a pas de soucis, c'est peut-être approprié de quoi.
Le mec concentré, ouais, quoi.
C'est ce que tu disais. On l'a fait de main, sinon.
Non, mais.
Il est revenu d'une galaxie très très lointaine.
Fais parler quelqu'un d'autre d'abord, parce que.
Ça va, Lucas? C'était pas si terrible que ça, le film, quand même.
Tais-toi.
Bah, c'est grave, tais-toi.
D'accord. Et. C'était le pire, la pire transition de l'histoire des transitions.
Si tu veux, je t'en fais la fin. Une
très bien.
Une belle machine bien huilée, mais un peu vide.
Très bien.
Direct, je m'en branle.
Pardon, excusez-moi, j'écoutais pas.
Attends.
Bon. Ok. D'accord, une belle machine bien huilée, donc.
Exactement.
Cyril, ton avis, je crois que toi, c'est la deuxième fois que tu l'as vu, déjà.
Oui, je l'ai vu mercredi à 10h pour la toute première séance et je l'ai revu aujourd'hui avant de venir en parler ici.
D'accord.
Parce que je ne savais pas quoi en penser la première fois que je l'ai vu. J'ai 1000 choses à dire, j'espère que j'arriverai à tout placer dans l'émission, mais je pense que ça vient du fait que j'ai trouvé ça très inégal sur plein de points, que ce soit la réalisation, l'histoire, entre autres. Et j'aime Star Wars de base, donc je pense que celui-là, je l'aime quand même d'une façon pas très objective, mais j'ai quand même beaucoup de choses à redire dessus. Mais bon, voilà.
D'accord. Donc ouais, tu l'as vu deux fois, un peu pour confirmer en fait.
Voilà. Je savais vraiment, la première fois, je me dis, je sais pas, je l'ai aimé ou pas, j'ai pas compris en fait. Et comme j'avais aimé le 7, moi, j'en attendais beaucoup aussi de la part du 8, notamment beaucoup de réponses, beaucoup de développement de personnages, parce qu'on présente des personnages, donc on en attend quelque chose par la suite. Et voilà, beaucoup de réponses aussi à certaines questions.
D'accord. Quentin. Dis-moi.
En tant que personne invitée pour parler de l'univers Star Wars, je pense que vous vous doutez un peu que je suis quelqu'un pour qui Star Wars était très important dans ma vie.
Ouais.
J'étais vraiment un fan très hardcore de cette saga.
Quand tu dis j'étais, c'est-à-dire ?
Bah que maintenant je ne suis plus.
Après 8.
Que maintenant, que pour moi, enfin bah, je vais en venir, mais pour moi maintenant Star Wars c'est fini, ça ne m'intéresse plus. C'est que au moment de la sortie de l'épisode 7, j'étais vraiment en mode grosse frénésie, j'en pouvais plus, je voulais absolument voir ce film. Du coup, au moment où le film est arrivé, en sortant, je sais pas en quoi en penser, tellement mes attentes étaient dingues. Et avec le recul, je trouve que c'est de la grosse merde.
Ok.
Voilà. Et alors, bah, du coup, pour le 8, là, c'est vraiment un film, je trouvais qu'il détruit absolument tout ce qu'a voulu faire J.J. Abrams avec le 7, qu'il détruit ce qu'il avait mis en place, par rapport à l'histoire, dont je pense qu'on parlera après, mais qui derrière veut placer quelque chose de nouveau, mettre la saga sous un nouvel angle. Et du coup, se donner un genre de film renouveau, alors que je trouve ça d'une hypocrisie totale, parce que le film est boursouflé d'humour à la con, à la Marvel. Enfin voilà, j'ai dit Marvel.
Ça y est, le point Marvel.
Non, mais je trouve que le film n'innove absolument pas, et que je trouve ça hypocrite de se vendre comme étant un film renouveau, alors que dans sa structure, dans ce que ça raconte, ça vaut pas mieux qu'un autre blockbuster de base qu'on a vu cette année, quoi.
D'accord.
Et j'en suis sorti de là désolé, mal. C'était c'est la première fois que je voyais un film Star Wars dans lequel je me faisais chier, que j'étais gêné et que.
Mais ça t'était pas arrivé au moment du set.
Ah non, même pas Rogue One. Enfin depuis je trouve en fait ça m'a. Pour moi, Rogue One, maintenant, je trouve que c'était finalement parmi les trucs sortis jusqu'à présent, c'est le meilleur film. C'est parce que c'est un film où le réalisateur il a quand même eu un point de vue. Enfin, il se passait quelque chose, c'était un film de genre, presque. Mmh.
C'était presque pas un Star Wars.
Et là, je suis désolé quand je vois ce genre de film, c'est triste. Voilà.
D'accord. Je t'ai laissé.
Attends, Bastien, t'as l'air enthousiaste, Bastien.
Non, mais je vous écoute parler et puis je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit. Effectivement, pour moi, c'est un peu comme tu dis, Quentin, c'est le vrai problème du film. En fait, c'est un film qui passe son temps à déconstruire toute une mythologie, à tout casser. Il prend le jouet, il le tord dans tous les sens, on va tout casser, et dans l'idée je suis là pourquoi pas, mais à condition qu'on me construise quelque chose de nouveau derrière, et ce que le film ne fait absolument pas. Donc je trouve dans sa démarche au final même que le film est un peu dangereux par rapport à ça justement.
Et tu m'avais parlé de ça.
Ouais, parce que c'était la réaction à la fin du film, j'étais
totalement. J'étais choqué, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. Il y avait un truc pendant tout le film, j'étais vraiment pas bien.
Je voyais le flou.
J'étais flou. Bon, après, c'est parce que j'avais pas mangé la veille, c'est pour ça que j'étais pas bien, j'avais un peu la dalle.
Pendant la séance, j'étais avec lui, enfin, il y a eu du bouche à bouche et tout, c'était.
Je suis fait piétiner au Max Lambert.
Non, mais oui, je trouve ça, pour revenir à ce que je dis, je trouve ça dangereux, dans le sens où ça déconstruit tout ce qui a été créé pour ne rien construire derrière. Enfin. Du coup, il n'y a plus rien en fait. Star Wars, pour moi, est mort devant ce film. J'ai vu ce film, j'ai vu Star Wars est mort. C'est fini, ça n'existe plus. Et pour des enfants qui voient ça, au niveau de leur inconscient, je me dis que ça peut faire bizarre quand même. Que tu t'attaches à des héros, à un univers, à un truc, et là, on te casse tout de cette manière-là, et on te laisse comme ça, genre. Voilà.
Démerde-toi
avec ça.
À dans deux ans.
Moi, j'aurais vu ça étant gauche, je pense que j'aurais fini en PLS, j'aurais pas été bien, mais sans comprendre pourquoi.
Justement. On va y revenir, mais je pense que Star Wars n'est plus du tout une saga pour enfants, enfin qui peut être regardée par des
enfants. Les parents de Bastien sont là ce soir autour de nous, c'est peut-être pour ça, parce que Bastien se sent vraiment très mal en ce moment.
Suite à Star Wars 8.
Ça va pas du tout, putain.
La famille est venue en aide.
Cellule psychologique. Cyril,
juste, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. J'imagine qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais côté enfant, je suis pas du tout d'accord avec toi.
C'est-à-dire côté.
Okay.
Ça peut choquer les enfants, tu veux dire?
Non,
toi,
non.
T'es pas
moi,
d'accord?
J'ai une petite cousine qui a 8 ans et qui a découvert Star Wars grâce au 7.
Ah oui, après, c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment mon avis, c'est très subjectif.
Ouais, après. Que je dis vraiment... Et quand elle savait que j'étais fan de Star Wars, et quand elle a vu le 7, elle est venue me voir, elle m'a dit: Cyril, j'ai vu Star Wars, et j'ai vu ce que t'aimes et. Oh, j'aime tellement Rey. Et puis elle a commencé à vouloir faire des trucs au sabre laser. Tout. Et moi, je trouve que justement, le 7 et même le 8, dans son message final, ça m'a beaucoup émue. Parce que je me suis dit, elle qui va regarder ça, qui a encore un esprit d'enfant, qui a encore l'occasion de rêver, de pouvoir s'imaginer dans ce genre d'univers sans être bloquée dans sa tête par d'autres choses, elle pourra se dire, en voyant justement le 7 et le 8, moi aussi je peux devenir un Jedi, parce que tout le monde peut l'être en fait. Et ça m'a vraiment ému comme message de me dire qu'elle pourra se dire ça, quoi.
C'est cool d'avoir l'avis des enfants, parce qu'au final
c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait jamais vu Star Wars, c'est ça?
Voilà. Okay. Bah, parce que
elle a commencé par celui-là.
Oui, parce que ses parents veulent pas encore lui montrer le 1, 2, 3, pardon, je parle pas de cela, du 4, 5, 6, parce qu'il y a encore des scènes qui sont un peu choquantes pour son âge. Et ça m'a, du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'émeut à un point ouf. Et je pense que Disney, c'est sur ce point-là qu'ils sont forts, en fait. C'est pouvoir dire aux enfants, vous pouvez, vous aussi. Mm-hmm. Bon, ça fait un peu pub, pour le coup, mais.
C'est ce qu'ils visent, de toute façon.
Oui, oui.
Acquérir un nouveau public et parler à une nouvelle génération.
Voilà, mais quand elle vient me voir et qu'elle me raconte ça à sa manière, je suis dingue, quoi, parce que ça me fait plaisir. Non, pas encore, mais elle va y aller.
Bah, je veux bien son avis. Tu envoies un texto.
On l'invitera
pour le prochain podcast.
Ouais, ça serait super d'avoir un avis enregistré d'un enfant. Mais
je pense qu'après avoir vu le 8, elle tentera aussi de prendre son balai.
Ou alors elle sera en PLS.
On sait pas.
Avant de commencer à spoiler, parce que je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour l'instant, on n'a pas spoilé le film.
C'est vrai.
L'avis de Lucas. C'est parti.
Moi, j'ai pas trop su non plus comment prendre le film. J'étais assez déstabilisé. Effectivement, tu dis qu'il déconstruit tout ce qu'avait construit J.J. Abrams. Je sais pas s'il déconstruit ou s'il prend des libertés, parce que comme tu disais aussi, c'est la seule fois que ça s'est bien passé. Alors quand un film se passe bien, est-ce que c'est pas signe un peu suspect, parce qu'effectivement, Kathleen Kennedy dit derrière, elle lui file les clés de l'Empire pour faire une nouvelle trilogie. Et puis je crois que vraiment, elle a laissé faire ce qu'il voulait. Même au niveau de l'écriture.
Ah oui, c'est écrit et réalisé par Ryan Johnson, de A à Z.
Du coup, on spoil pas du tout. Hein. Je peux pas parler du. Ouais, effectivement, j'ai eu du mal à comprendre ce vers quoi il voulait aller, en fait, dans son discours. Effectivement, faire venir. Énorme spoil.
Attends, du coup, là, si les gens ne veulent pas être spoilés.
Lucas
va spoiler et il va vous gâcher tout le film. Voilà, ce sera de la faute de Lucas.
Ouais, ça.
Vous pourrez remercier Lucas après notre départ.
Non, mais on va dire que là on a donné notre avis du global et là on va commencer à spoiler parce qu'on va pas. Voilà, c'est bon.
Ouais, j'ai vu Disney un peu incarné dans le personnage de Yoda.
Il y avait Yoda dans le film.
Ouais, il y avait Yoda.
Il y a une peluche à un moment, je sais pas si tu
as. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est vraiment
la marionnette.
La marionnette animée par
Francoise.
Merci, ouais, j'ai plein de trous là. Animée par Francoise et voir Yoda dire non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tout ce que j'ai appris à Luke, tout ce qui a pris des plombes, tout ce qui est super important au final on peut le foutre au feu, on peut le cramer.
On a le droit aux erreurs.
C'est ce que tu disais sur le jouet qu'on envoie valdinguer. Et en même temps, comme Cyril, je suis aussi content qu'on puisse dire, effectivement, les futures générations, etc. Même si je trouve sur la fin que ça fait un peu pub, quoi. Un peu, tu vois, genre... il parlait de la légende de Luke Skywalker, etc. Bon, je trouvais ça un peu abusé. Et moi, j'ai été gêné par tout le côté, effectivement, Marvel du film, les vannes, genre. Le raccord.
Excuse-moi,
le raccord. Voilà, le raccord entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Donc, on finissait sur un truc épique, ah ouais. Sur une île style écossaise où t'as Rey qui est là, qui sort le sabre laser de Luke Skywalker, qui lui donne. Enfin, c'est quand même quelque chose.
C'est important.
Il y a une passation, il y a une filiation, ouais. Etc. Et qu'est-ce que fait Luke? Il prend le sabre laser, il le jette hors champ. Dans la flotte, par-dessus l'épaule. En mode.
Et il est à deux doigts de faire je vous emmerde les gens, en train de
m'amener. Alors, l'héritage, Osef.
On sait pas si c'est censé être un moment drôle ou pas, en fait. Moi, je sais pas comment réagir par rapport à ça. Genre, ouais. La salle rigole, ok, c'est drôle, mais. On retient quoi de ça?
Alors, je sais pas toi, mais moi la salle était gênée. Hein. Enfin, je.
Ah, moi ça se fondait la gueule. Ah, non, ils étaient à 300%, les mecs, ils rigolaient à toutes les vannes.
C'était du début à la fin. C'était pour tout.
J'ai perdu tout espoir en l'humanité ce soir-là, sache-le, William. Je te le dis droit dans les yeux.
Je me demande si c'était pas un peu un rire jaune quand même à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est très gênant en fait.
Ça arrive comme
mais même moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que celui-là c'est vraiment un humour Marvel quoi. On dirait que maintenant c'est normal de faire des blagues à la con comme ça et super lourdes. Là où le 7 justement, les blagues elles étaient plus subtiles je trouve et c'était mieux amené. Là rien que la première scène quoi, c'est quand même affolant, genre salut général Hux, mais on s'en branle quoi, putain. Passer à un truc, c'est ce que je reproche beaucoup au 8, c'est de pas être assez angoissant en fait. Que tiens, on va te balancer des vannes, ça fait rire.
Paradoxalement, en fait, parce que
oui.
L'histoire est censée rappeler ça.
Il y a une histoire. Ah, ça suffit.
Trop facile. Non, mais le truc, c'est que chez Star Wars, quand même, l'humour n'a jamais été une qualité. Enfin, dans la première trilogie, l'humour était un peu déjà un peu lourd, enfin c'était pas très 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 drôle, ça me faisait rire, mais c'était pas forcément le meilleur humour qui existait, mais c'était les personnages de Star Wars qui rigolaient entre eux, de situations entre eux. Là j'ai l'impression dans le 8 que c'est les personnages de Star Wars qui rigolent sur ce qu'est Star Wars et enfin, tu vois, genre l'humour ne se positionne pas du tout de la même façon.
Bah, l'humour de la trilogie en fait c'est un humour de camarade. C'est vraiment une camarade,
c'est un côté un peu tape dans l'épaule, etc.
C'est pas l'humour de Marvel qui vient à chaque fois désamorcer une situation dramatique, une tension, etc. Ou là, dès que ça monte un peu, c'est
grosse vanne.
Les cheveux de Leia, quoi. Enfin, elle le fait deux fois la vanne, c'est bon.
Torse nu.
Ah, ça c'est la pire.
Tu peux mettre quelque chose sur toi. Mais moi, j'ai l'impression que pendant ce film, j'avais un gun sous la tempe qui me disait rigole, rigole, rigole. Mais non, mais j'ai pas envie de rigoler.
Le problème, c'est qu'entre temps, il y a eu les Marvel et surtout. Les Gardiens de la Galaxie, qui en fait est un peu, ils ont laissé les clés.
Étendard de cette
ouais, là, hein. C'est ça. Et puis
à la Marvel, en
fait, quand ils ont laissé les clés à Pepper, celui qui a fait super là,
James Gunn.
C'était un peu pour faire une sorte de nouveau Star Wars en fait, et du coup, enfin, ça ressemblait vraiment le gangster de l'espace avec sa grosse créature, le mec qui est un peu un chasseur de primes aussi. Enfin bref, c'était pas tout à fait exactement les mêmes archétypes, mais ça ressemblait énormément. Et il y a les blagues qui étaient dans les Gardiens de la Galaxie, ce désamorçage constant. C'est ce qui fait maintenant l'humour Marvel, ce que vous disiez, et du coup, le film commence là-dessus parce que on rappelle vite fait l'histoire du film, mais en gros. C'est ça qui fait que c'est peut-être un peu. Moi, en tout cas, je suis sorti un peu comme toi, Cyril, de pas avoir trop compris. En fait, un peu gros guide, tu sais, de toute l'histoire. Puis j'étais pas sûr d'avoir tout compris et de me dire attends, mais j'ai aimé, au fait, ou pas, tout ce truc-là, parce que je trouve que ça met énormément de temps à démarrer. Le film fait 2h30, on le rappelle. Je trouve que ça a mis beaucoup de temps à démarrer, une bonne quarantaine de minutes à démarrer. Et puis après, ça part dans tous les sens, et en fait, les personnages sont séparés, ils ont des aventures parallèles et tout. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, qu'ils vivent leurs aventures chacun de leur côté, mais du coup, ils vivent leurs aventures chacun de leur côté. En fait, c'est plusieurs histoires, plusieurs petits épisodes de série, en fait, on dirait, pris mi bout à bout, qui sont censés être des trucs assez dramatiques, parce que du coup, pendant tout le film, t'as un vaisseau des rebelles, les derniers rebelles, qui vont se faire pulvériser par les méchants, enfin par le premier ordre, l'Empire Premier Ordre. Du coup, on essaye d'éviter ça. Comment ?
L'Empire 2.0,
avec le magnifique suprême leader Snoke, paix à son âme, et qui, du coup, donc là, on va dire que la trame principale, c'est ça, c'est ce vaisseau qui se fait attaquer, et il faut arriver à sauver les derniers rebelles. Qui disparaissent les uns après les autres, ainsi de suite, enfin, jusqu'à même Leia, qu'on fait revenir.
Oh pitié.
Voilà, la princesse Leia qui se fait exploser son vaisseau mais qu'en fait non, parce qu'elle a le pouvoir de la force et qu'elle revient.
Mais ça, c'est...
Oh putain, j'avais oublié.
Mais oui.
Oui, super, Mamie Nova.
Mais oui. Ça, comment on appelle
ce plan Superman était magnifique. Quand elle arrive la main en avant, comme ça, en approchant le vaisseau.
C'est... Mais le truc, c'est que les, tu dis les petites histoires, les petites scénettes, c'est Star Wars. C'est, gérer la pluralité des personnages, c'est.
Oui, mais là, ils sont quand même bien séparés.
C'est le taf que tu dois faire. Et le truc, c'est que pour le coup, il y a quoi, on va dire deux nouveaux personnages que moi, je trouve intéressants. Mais le film est. Qui sont Rose, ouvrière, une ouvrière, une technique, ouais, une techos de vaisseau de des rebelles, qui est comme les autres personnages, fan des personnages comme nous en fait de la trilogie. Et il y a le personnage joué par Laura Dern, j'ai oublié son nom, c'est
Amiral Holdo.
Amiral Holdo, qui est un personnage de femme forte qui gère tout ça de façon plus intelligente que ce que les autres peuvent en penser. Mais le film est ultra déséquilibré. Je trouve que Rian Johnson a du mal à gérer tous les personnages. Et au final, c'est triste à dire, mais au-delà du discours effectivement sur peut-être brûler les idoles pour reconstruire de nouvelles choses, cette histoire de crise un peu de jeunes, de milléniales qui sont obligés d'essuyer les pots cassés de ce qu'on n'a pas réussi à traiter leurs ancêtres ou les gens qu'ils ont précédés. Il y a ça, très bien, c'est intéressant, mais sur 2h30 de film, t'as surtout... cette histoire de d'assaut, enfin de avec tout ce qui est toute l'histoire avec Poe, avec l'amiral Akbar aussi, on en a pas parlé, mais
merci.
Bastien, on était à deux doigts d'exploser.
Ils l'ont balayé d'un revers de main. Ah, en fait, Akbar est mort. Akbar,
le mec, c'était un héros.
Ben voilà, c'est.
Et ils sont là. Oui, il est mort.
C'est fini.
Non, c'est un même.
It was a trap.
Et c'est super creux, quoi. Au final,
je pense que t'as le silence avant de se remettre dedans. Je sais pas. On honore un peu le truc, mais non, on le balance. On jette à la poubelle l'amiral Akbar.
Je dirais pas. Par contre, j'ai quand même pris du plaisir devant le film à certaines reprises. Enfin, effectivement. Il y a des moments qui sont assez bien réalisés, il y a des choses qui sont assez belles, il y a quelques séquences bien, je pense la séquence dans le bureau, mais dans l'antre. Mais non, parce que la caverne elle est intéressante, mais au final ils nous refont le Luc face à son père, sauf que là ça a beaucoup moins de signification que dans le premier film. Non, je pense surtout le mode coop entre le mode coop dans le bureau de Snoke.
C'est pas visé, c'était la baston entre Kylo, Rey, ouais, et les sous-fifres de, enfin les gardes de Snoke. Ouais, ça c'est, j'ai adoré l'amorce du coup, en fait le petit ralenti, après ça repart et...
Parce que ce que je disais à Jean-Victor, c'est qu'il y a un retour. Et...
Pardon.
C'est que j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu au côté Star Wars que j'aimais bien quand j'étais petit, oui. Parce qu'ils ont des sabres et parce qu'ils se battent. Le côté japonais, le côté Shambara, tu vois.
Du film, hein. C'est la seule baston.
Celui de fin aussi. Entre...
Ouais, mais il n'était pas vraiment là.
Le côté, tu vois, le côté Shambara, le côté les mecs, ils ont des positions un peu iconiques, ils sortent leurs armes, ils vont se battre avec ces armes-là. Et puis les personnages, j'avoue, je les aime bien, la garde, prolongement un peu physique des murs. Enfin, tu vois, il y a un petit peu de sens. Le rouge, pour le coup, le rouge dans le film, c'est symbolique, c'est très signifiant. Ouais, mais ça fonctionne assez bien. La séquence de fin sur la planète, effectivement, qui est quand même pas mal. Mais sinon, le reste, puis on parlera après de Luke Skywalker, mais...
Mais il y a un truc, je pense, qui rejoint un peu tout ce qu'on dit. En fait, moi, je trouve que le film a déjà un vrai problème en termes d'ampleur. C'est-à-dire qu'effectivement, on est quand même en train de parler de la fin de la résistance à nouveau et du premier rang qui essaie de défoncer tout. Alors déjà, moi, j'y comprends plus rien parce que à la fin du film précédent, ils venaient défoncer leur planète suprême et a priori, c'était la résistance qui était en...
C'était les planètes de la République. Ouais, et la résistance, c'est un groupe de personnes qui sont mis en dehors de la République. Et qui...
D'accord, donc en fait la République s'est barrée entre temps.
En fait, la République, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'ordre dissident au premier ordre qui s'est dit, nous, on s'en fout du premier ordre.
C'est le gouvernement qui a pris place après le retour du Jedi quand ils ont buté Dark Vador et Palpatine. C'est
vrai qu'on est en train d'évoquer des choses auxquelles même J.J. Abrams ou qui que ce soit, c'est Lucasfilm, n'a jamais pensé là. T'es au courant ou pas? Personne n'a jamais réfléchi à ça.
C'est-à-dire qu'à la fin, en gros, si on abrège et on fait ça plus simplement, à la fin de l'épisode 7, ils ont enfin explosé leur fameuse planète vaisseau qui défonce tout. Donc en théorie, les mecs sont en position de force. Il y a une pauvre bataille au début du film avec trois pauvres vaisseaux et d'un seul coup on fait oh là là, c'est la mort de la résistance. Et en fait, le film, c'est littéralement cinq vaisseaux qui poursuivent cinq vaisseaux
de manière très très lente.
De manière très très lente et de manière très très plate. Et tu te dis, en fait, c'est quand même censé être les enjeux les plus importants de la galaxie, toute, la survie de la galaxie tout entière. Sauf que tu y crois jamais parce que, bah, à un moment, ils vont sur une planète, t'as des mecs qui sont dans un casino, ils n'ont rien à branler. Et t'as l'impression qu'en fait, hormis trois connards dans des vaisseaux, t'as l'impression qu'en fait, tout le monde s'en fout ce qui leur arrive à trois pecnos dans l'espace, quoi. l'enjeu qui est quand même la survie de la galaxie, t'y crois pas une seconde, tu t'en fous complètement. Mais parce que le mec prend jamais le temps de montrer en fait comment cette galaxie fonctionne et de mettre un peu de recul et de perspective là-dessus, quoi. C'est juste trois vaisseaux qui poursuivent trois vaisseaux.
Je suis plutôt d'accord. Je veux juste noter que je trouve que c'est un des premiers Star Wars où on se soucie un peu de ceux qui meurent, mais de façon totalement random. Dans les batailles notamment spatiales.
À travers la scène d'intro notamment.
Oui, oui, mais même après, c'est vrai qu'après c'est un peu plus chelou. Parce qu'ils ils attendent presque qu'il y ait cinq vaisseaux qui meurent avant de se dire bon, on fait quelque chose.
Ah oui,
mais c'est la première fois qu'on parle de cela, où on voit même sur un tableau de bord, t'as vu, t'as tant de vaisseaux qui sont morts et tout ça. Enfin, alors que dans les autres Star Wars, c'était ah, t'as vu, on a gagné, ouais, mais on s'en fout, à quel coût en fait. Et là, Leia, elle le dit, à quel coût on a gagné, effectivement. Et elle dégrade d'ailleurs Poe pour ça. Et je salue quand même d'avoir parlé de ça.
C'est aussi la scène d'intro où on montre le sacrifice d'une soldate de la de résistance.
D'un ouvrier, le petit peuple qui meurt.
C'était
l'histoire de Prolo maintenant. On a fini les ordres de la République, on s'en fout.
On a compris que c'était la sœur de Rose, notamment grâce au collier, où on insiste.
Notamment grâce à un indice visuel sous la forme du
collier qui se connectait entre eux. Ah bon ? Ah d'accord. Ah bah non, moi je suis bête. Non, mais on insistait beaucoup sur son sacrifice. Enfin. C'était une scène. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'on a un Star Wars avec une scène d'intro où on insiste sur un personnage lambda qui crève et en sacrifiant et.
Ouais,
et
mais enfin, oui, sûrement. Mais c'est pas, mais c'est pas ça.
Ouais, okay. Par rapport au fait que oui, c'est vrai que c'est un film où on insiste un peu sur le côté dur de la guerre.
Du sol, ouais. Enfin, pas en l'occurrence du sol physiquement. Enfin bref. Mais c'était un peu ce que faisait Rogue One aussi, je trouve. C'était le.
Oui.
Voilà, c'était le sujet de Rogue One. C'était que c'est cette char à canon en fait.
Comment ? Encore un film sur les prolos.
Encore un film sur les prolos. Par des prolos.
Que Luke Skywalker, c'est un fermier à la base, monsieur.
Il est vrai.
Mais non, mais par contre, tu vois, je suis d'accord avec ce côté. On fait gaffe à tous ces personnages qui sont pareils. Finn à la base dans l'épisode 7, c'est un Stormtrooper. Ouais. Pareil, on met un visage sur ces mecs qui sont les plus uniformes possibles. Rey, c'est encore une fille du désert. Qu'on se dit, ah machin, mais elle a forcément un rapport avec la famille légendaire. Et en fait, non.
Peut-être pas.
Oui, mais on lui. Alors, moi, je vois pas quand même, on en parlera après.
En même temps, peut-être que si, parce que l'impression que j'ai, qui est un peu triste, c'est que Disney, quand ils produisent ces films-là, ils font ce qu'ils veulent. Si, dans le prochain épisode, ils veulent te faire revenir Phasma, parce qu'ils ont envie de te faire revenir Phasma,
ils le font.
Tu vois, genre, j'écrase mon masque.
Parce qu'il était pas beau,
ça va pas. Peut-être qu'il en aura un autre dans le suivant, effectivement. Ouais. Et bon. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi, on se soucie des personnages qui meurent. Mais à ce niveau-là, je trouve le personnage de Poe Dameron complètement décevant et même un peu bête. Et dans le film, je me suis dit, putain, il y a plein de personnages qui ont des réactions un peu étonnantes. Tu parlais de Finn. Je me suis demandé pourquoi ils se déguisaient pas en Stormtrooper et pourquoi ils se déguisaient
en plus ça aurait été une super idée pour le personnage
ça aurait donné peut-être un peu de dire, genre je me suis dit le mec on le remarque pas en fait ce serait le FN 2147 ou je sais pas trop comment il s'appelle 87 ouais pardon
Star Wars là.
FN 2187
tu vois les livres qu'il y a dans l'arbre c'est eux qui les ont écrits
et on nous promet des choses qui sont un peu le combat entre Finn et Phasma. Je crois qu'on a un truc qui allait durer 12 minutes, ultra épique, etc.
Phasma, c'est le personnage qui valait rien dans le set, que vous avez dit, ne vous inquiétez pas, il sera super important dans le 8, qui au final est là 3 minutes, qui se fait buter comme un.
Mais c'est là que je me rends compte que c'est là, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire dans leur film. Parce que dans le set, on le vend des Phasma, genre, on la voit pas beaucoup, mais après on la verra plus. Et là, la deux scènes, elle crève. Les mecs ne savent même pas ce qu'ils.
On sait même pas si elle crève. Elle tombe dans un trou.
Il y a pas mal de feu quand même au fond du trou. Elle crame. Hein.
Tu sais, ça en a arrêté plus d'un.
Remember Gandalf.
Oui.
Il y a un truc qui me choque un peu dans le film. C'est par rapport à Star Wars. Je pense que c'est aussi un mythe qui a marqué les gens parce que c'est un mythe qui a toujours été marqué par le poids de la mort. Dès le premier film, il y a Obi-Wan Kenobi qui disparaît.
dans le deuxième, il y avait Han Solo qui disparaissait, machin. Enfin, il y a toujours le petit Dark Vador, etc. Et je pense que c'est important. Enfin, la mort a toujours été très présente. Et là, ce qui m'a choqué, c'est notamment le retour de Yoda, qui lui aussi disparaissait. En gros, bah voilà, il avait fait ce qu'il avait fait, donc il passait la main à Luke Skywalker. Et là, le mec débarque de nulle part en mode
hey, salut Luke, ça va? Ça faisait longtemps.
Ouais, et tu te dis, et en fin de compte, bah, comme Leia, on tisse sa mort, mais en fait, non, elle meurt pas, puis machin, on tisse sa mort, mais en fait, personne ne meurt. Et les mecs reviennent carrément de je sais pas où. Et tu dis, en fait, voilà, cet univers, je reviens sur ce que tu disais de Disney qui fait ce qu'il veut, c'est qu'en fait, bah, finalement, tout est possible, on s'en bat les couilles, et ça m'étonnerait même pas de revoir Obi-Wan Kenobi revenir en mode YOLO dans le prochain épisode, ou de se dire qu'effectivement, Captain Phasma arrivera avec une kippe et dire, je suis encore là, tu vois. T'as envie de dire, je sais pas, si vous voulez faire un drame, si justement vous voulez marquer les gens et vraiment laisser une trace, faut que ce soit marquant, faut que ce soit tragique, et faut que les personnages ils soient pas indestructibles.
Et cette scène avec Finn à la fin, qui fait ça avec sa tentative de suicide.
Ouais, moi je me suis dit, vas-y.
J'ai jamais, vas-y gros. Défonce-toi, donne tout.
Et on n'y croit pas du tout parce que c'est ce que je voulais finir de dire tout à l'heure, c'est que je prends complètement la main. Mais c'est une OPA sur le. Mais ce que je voulais finir tout à l'heure en disant, quand on parlait de proche du peuple, tout ça, encore une fois, c'est que il y a aussi ce qui fait que beaucoup de choses auxquelles on ne croit pas, toutes ces scènes épiques et tout, on n'y croit beaucoup pas. On n'y croit pas beaucoup parce que il y a des problèmes de cohérence dans les constructions. Je sais pas si c'est scénaristique ou si c'est la mise en scène, mais ne serait-ce que cette fameuse scène de sacrifice avec les bombardiers au début, tout ça, ben en fait, moi, j'y crois pas, ces bombardiers-là, ces espèces de courges qui font tomber des grenades. C'est pas du tout logique, tu vois, comme vaisseau spatial.
Les turbocanons,
ces vaisseaux existaient avant, je crois, ils avaient pas cette. Enfin, ils tiraient pas de cette façon-là. Hein. Les Y-Wing, là.
Voilà, mais parce que c'était pensé tout ça, il y avait c'était pensé, c'était réfléchi. Là, on sent que c'est beaucoup moins réfléchi, c'est juste visuel. Et en fait, quand tu grattes un peu. Typiquement, la scène à la fin sur la planète de sel, là, les trucs avec les skis, là, j'ai pas compris
quoi,
cette histoire de ski.
Quoi, ouais. C'est quoi la fonctionnalité de ces vaisseaux?
Les mecs sont en télémarque, là.
Un petit truc qui surfe, qui fait du rouge. Et... Non, mais surtout, qu'est-ce que tu veux casser avec ça?
Ça vole, donc pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de skier?
À la fin, il enlève le ski et en fait, ils volent littéralement au-dessus du sol, quoi.
Je sais pas, j'ai pas compris le.
Enfin, je sais pas, la mission suicide, c'était quoi, ça, en fait? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire?
C'était une mission suicide.
Mais en fait, le. Mais non, parce que la chinoise, elle veut pas. Enfin,
Rose,
pardon.
C'est pas
vietnamien, autant pour moi. C'était extrêmement raciste, excusez-moi.
Effectivement, en fait, les vaisseaux, ils font des fumées bleues, des fumées rouges pour faire des fumées rouges parce que c'est joli, quoi. Ça n'a aucun intérêt pour eux, a priori.
C'est que, enfin, ils
font. Ils font pas des fumées rouges.
Non, c'est sous le sel.
Ah oui, c'est le sel. Ils font pas de fumée. Ils font de la fumée, quoi.
Mais disons, c'est vrai, mais c'est quand même, pour le coup, c'est quand même
joli.
Ah non, c'est magnifique. Visuellement, enfin, le dernier acte est magnifique.
Mais c'est clairement. Le 8 aura eu le mérite de me faire aimer un personnage auquel je croyais pas du tout dans le 7. Au final, c'est Kylo Ren, Kylo, je peux mettre Kylo ou Kylo. Au final, Kylo Ren, je trouve, c'est peut-être le meilleur personnage pour l'instant. Parce que Adam Driver, je le trouve très bien. Je ne fais pas le poseur en mode de base, j'adore Adam Driver, machin. Même si effectivement, je l'aime beaucoup. J'y croyais pas trop dans le 7. Et là, dans le 8, on lui donne en fait indirectement une réelle épaisseur. Il est vraiment, son histoire est vraiment touchante, quoi.
Épaisseur physique aussi.
Oui.
C'est comme poids de torse nu.
Oh mon dieu. Ah. Non, mais c'est la pire scène, je trouve. Une des pires scènes du film. Non, c'est pas ça. C'est vraiment. C'est l'humour. Ça décrit bien l'humour du film. Ça devrait être pas le moment. Et il te sort une blague.
Ça n'a rien à voir avec le caractère des personnages.
Oui, en plus.
De placer un humour comme ça, c'est juste. Ça tombe du ciel, en fait.
Mais oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis le 7, moi, j'y crois, ce personnage. Moi, c'est le personnage que je préfère. Dans cette nouvelle trilogie, je trouve que Adam Driver, il sait jouer ce dilemme interne et il est génial dans ce personnage.
Mais ce qui fait que je trouve qu'il est presque en surjeu par rapport au reste du film.
Bah, ce qui
ça lui
bizarre,
donne un côté très ado énervé, mais beaucoup plus que dans celui d'avant.
Ça me fait marrer, en fait. Enfin, c'est un personnage auquel je crois pas parce que justement je vois un pisseux qui est en mode c'est pas le plus méchant,
ouais,
qui casse tout, quoi.
Pourquoi pas? Parce que c'est le sujet du film, c'est le sujet de Star Wars, des pères ratés qui ont raté leur éducation, qui ont raté la transmission, et c'est quand même ce dont parle le film avec le personnage de Luke Skywalker. C'est aussi effectivement la relation de Luke Skywalker et Kylo Ren, c'est le seul intérêt du film, parce que l'entraînement de Rey, enfin il y en a pas, il dit je veux pas t'entraîner et puis il l'entraîne pas.
Il parle de trois leçons et en fait il y en a que deux.
T'as dit quoi?
Il parle de trois leçons,
en fait il y en a deux.
On peut parler aussi de la manière dont il est convaincu, juste parce que R2-D2
lui remontre Leia dans Un Nouvel Espoir qui dit on a besoin de vous.
Obi-Wan.
Ouais, Obi-Wan, Winnie. Waouh, c'est le seul truc qui le convainc de.
Luke Skywalker, il passe pour un con pendant tout le film, et ça, c'est très
bien quand même. Enfin, moi, à aucun moment, j'ai vu Luke Skywalker dans le film. Hein. Je sais pas si ça m'a fait
même toute l'histoire de justement du mec qui se réfère constamment à trois pauvres bouquins. Enfin, moi, en fait, j'ai l'impression que les mecs te parlent d'un truc qui était déjà acquis par le public avant de voir le film.
Bah, c'est ça.
Quand t'as fini la trilogie Star Wars, a priori, tu sais que la force, c'est un truc qui émane de tout le monde et que c'est commun et que t'as pas besoin de lire un bouquin pour comprendre ce que c'est, quoi. Et le mec qui dit, non, mais attends, je défends la Bible. Mais d'où tu défends un bouquin? Tu sais comment ça fonctionne. C'est Yoda, justement, est mort dans le deuxième parce qu'il pensait que t'avais compris et que ça passait. Et là, le mec, il fait, non, mais attends, il faut utiliser le Codex Jedi. De quoi tu parles, mec? Enfin, c'est ridicule. Et du coup, bah, tu te dis, bah, justement, le mec qui est en mode, attends, je vais te réinventer Star Wars parce qu'en fait, la force, tout le monde peut l'avoir. Tu fais, non, mais mec, ça fait 30 ans que c'est comme ça, en fait. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, quoi. Et le mec, t'as l'impression que le gars, il a inventé l'eau chaude, alors pas du tout.
Non, mais ce qui est hyper intéressant avec Luke Skywalker là-dedans, je trouve, alors je sais que la déconstruction, purée, c'est hyper dangereux, surtout quand on sait que Disney est aux commandes, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que justement, ils disent je me suis pris pour une légende, tout le monde m'a pris pour une légende, et en fait, je le suis pas du tout, quoi.
Sur la question de l'orgueil.
Ouais, sur la question de l'orgueil. Et je trouve que toute cette question-là, elle est hyper importante et que c'est très bien amené, justement, et que sur ce côté-là, bah, il est pas du tout ridicule, quoi.
Ouais, mais en fait, le film n'en traite pas, puisque tu le vois juste tout seul dans son coin et que tu sais pas ce qui s'est passé ensuite. C'est juste un mec qui s'est, bah, a priori, parti en exode pendant 30 ans, et le mec dit bon, bah, en fait, j'avais le seum. Mais tu comprends pas en quoi dans son parcours l'orgueil à un moment a joué un rôle. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on l'avait vu, bah, il venait de sauver l'Empire et là d'un seul coup on le retrouve 30 ans plus tard en train de faire le con sur sa petite île et tu vois il te parle d'un truc mais tu sais pas concrètement de quoi il parle, quoi.
Parce que c'était le dernier Jedi, non? Et que du coup il est parti tout seul pour essayer de pas être seul, justement.
Mais non, parce que justement
ça a raté.
T'as cette histoire là d'élève, quoi.
Oui, c'est que je pense qu'il faut pas l'oublier, c'est quand même effectivement ce qui fait que il est en solo. Parce qu'avec Ben Solo.
Allez, c'est le rap le rap de
Molide. Parce que. Le rap de Star Wars.
Ouais, t'as effectivement l'aspect école, mais je trouve que c'est évoqué tellement vite qu'au final, ça a peu de poids dans le film, quoi.
Et puis pour continuer.
Tu vois, c'est pas évoqué si vite que ça, parce que t'as quand même. Il y a la scène expliquée du point de vue.
Ouais, mais tu sais, c'est un peu ridicule. C'est un élève qui a foutu le bordel et lui, d'un seul coup, fait en mode. Attends, j'ai bien le champ.
Oui, mais les élèves turbulents, on en parle pas assez.
Ah ouais, c'est vrai que c'est ceux dont on parle trop.
C'est ceux dont on se rappelle le plus.
Le problème, c'est ensemble. Complètement continue sur l'autoroute du spoil sur laquelle on est lancé. On nous a parlé de Snoke, qui était quand même censé être le nouveau Palpatine, le personnage super important, super effrayant.
Qui avant avait une salle de transmission holographique et d'un seul coup tout le monde va le voir chez lui, tu sais pas pourquoi.
Exactement, parce qu'ils se sont rapprochés en fait. Ils se sont dit que c'était plus cosy et ouais.
À la fin du set, ils disent rejoignez-moi, c'est la merde, venez chez moi. On est bien.
Exactement.
En fait,
ce mec-là est quand même censé être super puissant. Il voulait monter les chevaliers rennes en prenant le chevalier de rennes en prenant Ben Solo. On les voit en flashback, là ils sont 7 un peu comme les Nazgûl.
On les voit
dans le 7. Dans le 7, on les voit sous la pluie là.
Non,
ils les évoquent pas. Et en fait, ça, c'est aussi dans ce qu'on dit d'un épisode à l'autre. Finalement, il n'y a pas trop de cohérence. Et là, Snoke, c'est déjà fini. On l'a vu 3 fois. Il se fait avoir, ok, Kylo Ren est puissant, c'est vrai, mais il se fait avoir comme un bleu. Ouais. Moi, toute la séquence, je croyais qu'il feintait, qu'il savait qu'il allait avoir un truc et qu'il allait esquiver, ouais, etc. Mais en fait, non.
Enfin, il disait qu'il avait arrangé la rencontre entre Rey et Ben. Et au final, en mode, ah, je suis trop manipulateur, au final, il se fait avoir juste derrière par un coup, mais à la con.
Oui, on te montre. En plus, elle le tente une première fois, oui, et lui dit, not on my watch. Et en fait, après, il refait sa marche.
Du coup, il montre sa pleine puissance à ce moment-là, effectivement, cette séquence un peu drôle où. Où elle utilise la force pour récupérer le sabre, en fait, ça fait un demi-tour, hop, hop, hop.
Oui, parce qu'on compte qu'il est super puissant, et en fait, il se fait tuer d'une manière de merde, en fait.
Et du coup, c'était ce mec-là qui devait entraîner Ben Solo, et ça en rapport avec l'échec de Luke, etc. Mais c'est pas, je trouve pas ça assez solide, en fait, pour motiver les intentions qu'il y a derrière. Et puis après, effectivement, Luke Skywalker, l'humour, quand il s'est poussé, l'épaule en mode.
Comment t'es
arrivé? Ouais.
Ça sert à rien, mais ça montre une chose, et je trouve que c'est quand même sympa, c'est que Mark Hamill, bah, il sait que c'est un peu la fin pour lui dans Star Wars, et tu sens qu'il a tellement pris plaisir à jouer une dernière fois Luke Skywalker, et juste le. comme ça, tu sens que presque lui il l'aurait improvisé, je suis sûr.
Ouais, mais là, moi je vois Mark Hamill, du coup je vois pas Luke Skywalker.
Oui, mais.
Et ça me sort complètement.
C'est comme le I know de Harrison Ford, oui, voilà. Tu vois, qu'en fait on t'a toujours dit que limite c'était improvisé, alors qu'en fait,
attends, ça c'est le personnage. Ça c'est Han Solo qui dit I know.
Dans le personnage.
Et c'est en plus, c'est une réplique super dramatique.
Ouais.
Tout le monde s'insurge d'un coup.
Voilà quand on, ce qui se passe quand on parle de quand on parle de la trilogie originale, voilà.
Non mais l'anecdote de la trilogie.
Oui, ben oui, mais justement, enfin tu vois le côté qu'en fait il l'a pas tant que ça improvisé, que en fait ils l'ont répété plusieurs fois, enfin tu vois il y avait
cette réplique était
totalement improvisée, enfin
apparemment non, pas tant que ça.
Non mais le réalisateur il savait pas qu'il allait dire ça, enfin ils avaient essayé la scène plein de fois, ça marchait pas, et au bout d'un moment ils ont dû lui dire bah fais ce que tu veux. Ouais. Réalisateur a dit à Harrison Ford fais ce que tu veux et lui a fait ok, puis il a balancé ça quoi. Après il a jeté le mic, tout le monde était pouah, ouah, trop lourd, pull up, respect.
Vous avez pas été déçu de la finalité de Luke Skywalker, juste d'un point de vue narratif, ce qui se passe, ce qu'il fait. Ouais, bah après je comprends qu'on soit super ému, mais j'ai eu du mal à visualiser Luke Skywalker qui fait ça, le côté tortue génial, enfin le côté Avatar, Last Airbender, enfin tu vois la lévitation, etc. Et puis c'est fait comme ça, ça va tellement vite et puis hop, c'est fini et puis voilà, Luke Skywalker a fait une feinte, a fait une diversion finale.
En fait, ça
c'est intéressant, mais
ça témoigne aussi du film qui a peur vraiment d'y aller dans le drame, parce que montrer Luke Skywalker qui disparaît, c'est tellement moins puissant que le voir se fighter face à, enfin faire face à face et se faire tuer littéralement. Enfin, c'est voilà, graphiquement, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant à voir un mec se faire tuer par en plus son neveu ou je sais plus qui, par rapport à un type qui est sur une falaise et qui disparaît.
Oui, neveu, ouais. Le mec, on a rien à foutre.
Mais le personnage,
là, le gars, là, avec son sabre. Essaye de montrer que t'es un peu au moins un petit peu intéressé.
Est-ce que ça aurait pas fait redite déjà parce que Ben ou Kylo Ren a déjà tué Han Solo de cette manière. Il a tué Snoke. Est-ce que là, en tuant Luke, ça ferait pas ah bon, allez, on en remet une couche. Après, je dis pas que la façon dont ils l'ont montré c'est la meilleure, mais moi, je pense que j'en aurais eu un peu marre, genre ah vas-y encore. Allez, vas-y.
Au contraire, moi, je trouve que la couche en plus aurait été super bien dans le drame. Je trouve
surtout qu'ils essaient d'en faire vraiment le méchant super. En disant ce qu'on pensait être le manipulateur, on le vire direct et faire vraiment de Kylo Ren le mec du côté obscur suprême qui dépasse Dark Vador dans le côté vénère, qui défonce tout le monde. Je pense que ouais, en fait, fallait vraiment y aller à 300% dans cette direction-là, quitte à ce qu'il bute Luke Skywalker comme une merde à la fin, quoi.
Ça aurait montré aussi qu'il parce que lors du face-à-face avec Rey, au moment il dit à Rey, vas-y, viens avec moi, les Sith, les Jedi, tout ça, on s'en branle.
Et le premier rang,
on élimine tous les repères du monde d'avant. Et là, du coup, il aurait éliminé Han Solo dans le premier film, son père biologique qui ça a pas marché. Dans le deuxième, du coup, il élimine encore Luke, son autre figure de père, qui voulait lui apprendre la force et qui ça a pas marché non plus. Enfin, j'aurais trouvé ça intéressant, du coup, qu'il élimine un par un tout ce qui est pour lui le rattachait au monde d'avant. Et qu'ensuite, pour que lui, ensuite, il veuille instaurer son ordre à lui.
Ce que rêverait
exactement.
De faire autre chose que ce qui existe.
Ça, c'est
avant, n'existe pas.
Ça, je suis d'accord avec toi, c'est le côté vraiment intéressant. C'est vraiment le côté intéressant, mais ils se marchent un peu sur une poutre et ils glissent et ils y vont pas vraiment, quoi.
Maintenant, on dit que des bonnes choses sur le film. On dit qu'on dit que des trucs.
Les porgs.
Moi, pour apporter une petite conclusion, j'aurais envie de dire que c'est un film en plus qui, lors dans son discours de vouloir brûler le passé, en plus, j'ai l'impression qu'il ne s'assume pas parce qu'il y a un passage où on voit, avant que l'arbre Yoda crame l'arbre, Rey, elle prend les livres, elle se barre avec.
Oui, on le voit à la fin, non? On le voit à la fin, la couverture.
Elle a sauvé les livres, alors ça veut dire quoi au final? C'est que bon, ok, on crame tout, mais au final, on se laisse une petite backdoor à côté au cas où ça se passe mal pour ramener tout ça au final. Pour moi, du coup, ça n'a aucun sens, ils n'assument pas ce qu'ils veulent faire.
C'est tout ce côté dramatique qui est cassé.
Elle est censée former une génération de Jedi, alors qu'en plus, qu'elle n'a rien appris pendant tout le film, parce que Luke, à part la chatouiller avec un brin d'herbe. Enfin, elle a
rêve de se faire chatouiller par Luke Skywalker, hein, excuse-moi.
C'est le rêve de beaucoup de gens.
Putain. Non, mais voilà, moi j'ai tellement idéalisé le retour de Luke que je m'attendais pas à voir ça. Enfin, mais tout ça pour dire que oui, elle va apprendre des trucs alors qu'elle n'a rien. Elle est censée apprendre des trucs à des nouveaux gamins qui ont la force alors qu'elle n'a rien appris. Et qu'au final, elle a des livres qu'on te dit pendant tout le film, ça sert à rien. Enfin, c'est pas assumé, ils vont pas jusqu'au bout.
Non, puis voilà. même le côté. Luke Skywalker, c'est le dernier Jedi, puis la fois qu'il fait, je vous emmerde, tu suis pas le dernier Jedi, il y en a plein derrière, allez vous faire foutre.
Ben, ça prouve qu'en fait, le film, il va jamais au bout de ce qu'il présente, quoi.
Après, moi, ce que j'ai trouvé plutôt
plutôt, après on passera à autre chose, mais ce que j'ai trouvé de plutôt, c'est ce que j'ai trouvé de plutôt positif, c'est le fait qu'on te dise dans ce film que en gros tout le monde ouais. que c'est pas une histoire de transmission spécialement, enfin un peu quand même, mais que c'est une histoire de sensibilité et de cause à suivre et tout ça. Et c'est pour ça qu'on compte la pub à la fin avec les gamins. C'est que.
Ça m'a fait penser à Tomorrowland, tu sais, ça y est, ils ont la bague
la
et tout.
Avec la Volkswagen, le gamin.
C'est ce que je te disais, Lucas, Tomorrowland. C'est que ça m'a fait penser à Tomorrowland, ce côté fin, tout le monde peut le faire si vous avez la foi.
Sauf que Star Wars 8 sera pas dans mon top de l'année.
Mais surtout que je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là, mais je pense que de toute façon, de base, le succès monstrueux de Star Wars, c'est aussi parce que cette histoire de force, ça parle aux gens. C'est-à-dire que Luke Skywalker, quand on revient au premier film, c'est un prolo, c'est un fermier, c'est le mec qui c'est un bouseux quoi, et le mec d'un seul coup devient une espèce de chevalier de ouf parce qu'il a la force et les gens se sont reconnus là-dedans. Et évidemment que le succès de Star Wars est aussi dû au fait que les gens se sont dit putain, la force, on l'a tous en nous, etc. Là on vient juste te le dire explicitement, genre tout le monde peut avoir la force, mais c'est pas nouveau en fait, c'est déjà dans le film de base.
Alors est-ce que tu penses pas, et comme ça on va parler après de l'avenir en général de la saga, est-ce que tu penses pas que c'est lié au fait que il y a eu la prélogie entre temps et que dans la prélogie, on t'a dit que c'était scientifique, la force, et que Luke était pas... Bon, dans la trilogie, on t'explique que c'est le fils de Dark Vador quand même, mais que dans la prélogie, on t'explique que Luke, c'est pas un simple fermier, c'est aussi le fils de l'élu, tu vois. Et que
oui, mais c'est Jésus. La prélogie, tout le monde l'a foutu de côté aussi, donc...
Oui, mais il n'empêche que peut-être que cette trilogie, et en plus le 8, je pense que c'est un des trucs que j'ai préféré, je pense, c'est que mine de rien, ils essayent quand même de se dépatouiller avec ça, et que c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire de brûler les idoles, c'est que il faut revenir à te réexpliquer que non, alors attends, Star Wars, ouais, ok, on t'a expliqué que c'était des trucs.
Tu vois, c'est comme la fameuse excuse comme quoi il fallait faire absolument un remake de Star Wars pour remettre les gens et le pied à l'étrier. On parle quand même de la licence la plus populaire de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire tout le monde a vu Star Wars, c'est le truc qui a flingué l'inconscient collectif de tout le monde. Tu dis May the Force be with you, tu vois, tout le monde sait ce que c'est, donc partant de là.
Non, bien sûr.
Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, alors c'est pas une excuse, hein, mais par exemple, les enfants qui vont découvrir Star Wars grâce à l'épisode 7, ils vont déjà avoir une espèce de base sur la trilogie originale. Après, je dis pas que c'est
effectivement bien,
on peut montrer la trilogie aussi Star Wars, tu vois.
Par exemple, là, il y a des scènes qui sont encore trop dures pour certains encore, et du coup, avoir des nouveaux personnages aussi auxquels ils peuvent se rattacher, je trouve que c'est chouette. Enfin, même les petites filles qui peuvent enfin tenir un sabre laser, elles sont contentes, tu vois.
Il y en avait dans la trilogie. Les femmes qui tenaient les sabres laser. En arrière-plan, mais on les voit.
Oui, c'est ça.
On se bat en arrière-plan.
Après, je pense. Mais j'ai juste un dernier truc à dire, c'est que, comme tu disais, à l'époque, dans les premiers films, Luke, voilà, c'était le prolo, le fermier, le bouseux qui arrivait à s'élever. Mais aussi, je pense que si ça marchait, parce qu'à l'époque, ça, c'était des films sincères et honnêtes qui voulaient vraiment te faire passer un message. Là, moi, pour moi, quand je vois Star Wars, Die Jedi ou même n'importe quel autre film, je trouve que c'est des films horriblement cyniques et hypocrites. Et. C'est parce que nous, par exemple, moi et Bastien, parce que je ne vous connais pas encore vraiment, mais on passe notre temps à vendre, on passe notre temps à vanter les films des mecs comme George Miller, Bayona, Edgar Wright, ou j'en passe probablement, Brad Bird aussi.
Par exemple.
Parce que c'est des mecs qui, Guillermo del Toro, voilà, parce que c'est mon favori, mais c'est des mecs qui, quand ils font des films, ils ont vraiment. Ils sont sincères et honnêtes quand ils font ça. C'est humain. Enfin, y a jamais d'humour méta à la con ou d'un côté cynique. Et c'est ça.
Ils ont une super haute idée du cinéma. C'est vraiment.
Oui, voilà. Pour moi, c'est des films genre. Ils t'envoient vraiment une émotion qui te renvoie à tes propres émotions, qui fait que tu te questionnes. Et t'en ressors limite un meilleur humain. Enfin, t'en ressors grandi.
C'est ce qui a fait que au moins Star Wars, le premier, avait marqué aussi.
Aujourd'hui, moi, quand je vois les Dark Jedi, je vois plus du tout ça.
Oui, il y a un côté. Ouais, c'est ça aussi qui fait que. Qu'on se disait en sortant la première fois du film, que moi je me suis dit, faut que je le revoie. Parce qu'en fait, c'est presque cherché, je pense, le côté embrouillé. Tu sais, te raconter 50 fois la même histoire pour que la 51e fois, on puisse te raconter la même, parce que tu as oublié les 50 autres, tu vois.
Qui t'incite à aller retourner la prochaine fois.
Du coup, est-ce qu'on va y retourner la prochaine fois?
j'y retournerai peut-être pas le premier jour.
Bon, là, c'est parce qu'il y avait la contrebande. Voilà.
Je ne ferai pas le Max Linder le soir avec tout le monde qui rigole tout le temps.
Si j'ai bien compris, l'épisode 9 devrait se passer pas mal d'années après.
Ah, il va y avoir un saut dans le
flash forward, ouais. Si j'ai bien compris. Mais d'une dizaine d'années, un vrai gros flash forward.
Moi, c'est comme je le vois, de toute façon.
C'est pas étonnant, l'épisode 6, il s'est passé quoi, 3 ans après l'épisode 5 dans l'histoire.
Donc, je pense qu'il y a un petit bail.
Il n'y aura plus Ray, Finn, il n'y aura plus Poe. Ces personnages-là, non, ils n'existeront plus. Le personnage principal sera l'enfant qui tient le balai à la fin du 8. Il faut attendre qu'il ait 17 ans pour pouvoir faire le film. Genre Disney, quand on a plus rien à foutre. Le film commence et puis au bout du film, tout le monde se réveille dans la salle. Il n'y avait pas un mec à la base. Puis il y avait une fille aussi à un moment avec un sabre laser bleu.
Est-ce qu'on va pas commencer sur les funérailles de Leia qui...
Non, de l'amiral Akbar.
Non.
Parce que est-ce que
si, ouais, t'as raison, ouais.
Est-ce qu'ils ont pu tourner des scènes avec Carrie Fisher pour l'épisode 9?
Ils voulaient prendre des rushs du 8 à ce que j'ai entendu pour
Non mais après en fait c'est que à la base Cushing. Colin Trevorrow avait prévu une histoire pour le 9 qui mettait vraiment Leila en son centre.
Ah bah là c'est mal barré.
Bah non mais de toute façon Colin Trevorrow il s'est fait jeter.
Ah mais oui.
Et du coup je crois que c'est J.J. Abrams qui revient d'ailleurs, je crois qu'on l'avait pas dit.
Non, on l'avait pas dit,
il a pitché hier à Disney son film.
Hier ?
Oui, hier, très précisément. Donc le 15 novembre.
Ils l'ont déjà engagé.
Décembre.
Enfin, ouais, mais ça y est, il a son pitch, quoi. Décembre. Hein. Il a présenté son pitch, son scénario à Disney.
Du coup, ils reprennent totalement l'histoire. Enfin, je pense qu'ils recommencent toujours. Parce que d'ailleurs, ils avaient prévu de sortir le 9 en été, comme ils faisaient avant, en mai 2019.
20.
Ou 20. Waouh, c'est dans longtemps. Et au final, ils ont redécalé à Noël. Pour pouvoir, vu qu'ils ont changé de réalisateur et qu'ils leur trouvent reprendre de zéro.
Parce que c'est Noël aussi.
Et que ça marche bien.
Voilà. Ça marche bien de mettre les films à Noël. Du coup, le 9 de ce. Ouais, globalement, on n'est pas trop.
Comme j'ai dit dans la critique du cinéma des potes, ça ne va pas m'arrêter d'aller voir des films Star Wars.
Et est-ce que, du coup, toi, Quentin, tu disais que, par contre, ça t'avait séché, quoi?
Ah non, je commençais déjà doucement depuis 2 ans à n'avoir plus rien à faire. Parce que ce qu'ils font Disney, notamment avec l'univers étendu, dont on va parler après normalement, moi je trouve ça vraiment mauvais. Et là, oui, là, c'est la fin, quoi. Enfin, j'irais peut-être voir Han Solo comme ça, parce que il y a quand même un casting qui me plaît dans ce film, notamment Donald Glover en Lando Calrissian. Moi, ça me plaît beaucoup. Mm-hmm. Je suis vraiment très curieux de voir ça.
En fait, presque les spin-offs deviennent plus intéressants. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plus hâte à chaque fois de voir les spin-offs. En fait,
potentiellement des trucs où ils se permettent des
plus de liberté, ouais.
Plus de liberté avec des énormes guillemets, parce qu'au final, même là-dessus, ça vire tous les jours, quoi, des réalisateurs.
Et pour un vieux briscard de l'univers étendu, comme toi, que tu vas nous exposer maintenant, on t'impressionne plus, du coup, en termes de. D'univers étendu, enfin, parce qu'au final, est-ce que l'univers étendu se trouve pas un peu là maintenant, dans ces spin-offs un peu est-ce qu'ils veulent pas
essayer? Se trouve dans plein de choses, parce que du coup, j'essaie de représenter très vite fait ce que c'était l'univers étendu Star Wars pour les gens qui ne connaissent pas. C'était vraiment tout ce qui était à l'époque, tout ce qui était publié officiellement par les différentes boîtes de Lucas, que ce soit aussi bien des livres ou des jeux vidéo ou des comics. D'accord. Et pour la petite histoire, ça avait commencé direct après tout de suite après la sortie d'Un Nouvel Espoir, parce qu'il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait je regardais mes petites notes, mais qui s'appelait Splitter of the Mind's Eyes, et qui en fait c'était censé être la suite d'Un Nouvel Espoir, qui si jamais Un Nouvel Espoir ne marchait pas en téléfilm en film au cinéma. Ils voulaient faire un téléfilm ensuite, et c'était censé être ce bouquin là bon, ces livres là sont sortis, ils ont sorti quelques autres après qui étaient assez nuls, du coup ils ont arrêté.
Ils ont fait une BD Christmas Special, ils se sont dit bon,
c'est le tabou. Mais après ça a repris dans les années 90, quand là il y a un auteur qui s'appelle Timothy Zahn, il a écrit une trilogie de livres qui a vraiment posé la base de ce qu'allait être l'univers étendu pour jusqu'à encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils arrêtent, jusqu'à ce que Disney décide d'arrêter. Mais c'était une trilogie de livres qui était à la limite considérée officiellement par beaucoup de monde. Genre en France, on vendait ça comme les épisodes 7, 8 et 9 officiels, en fait.
Star Wars.
Ouais. Et c'était vraiment ça, ça a vraiment posé toutes les bases de ce que est l'univers étendu aujourd'hui. Et ensuite, bah oui, ça s'est étalé à des livres, des comics, des jeux vidéo qui étendaient toute la chronologie de jusqu'à moins 12 milliards avant la bataille de Yavin jusqu'à plus 100. Enfin, ça couvre tout, ça raconte plein d'histoires sur plein de personnages différents. Et George Lucas, lui, il tolérait le truc, enfin, il validait, il disait, vous faites ça, mais moi,
Lucas est en train de dire un mec qui se fait du blé.
Non, mais oui, il était là. Mais non, mais il disait, bah, vous faites vos histoires, mais par contre, dès qu'un jour, moi, je reviens, que je fais des films, j'en ai rien à branler de ce que vous avez fait, je casse tout.
D'où le concept d'univers étendu.
Oui, voilà, c'était voilà, il tolérait, mais genre, par exemple, lui, il disait, vous faites ça, il a interdit aux gens de faire des histoires sur Yoda, par exemple. On sait pas pourquoi.
Ah ouais?
Ouais, il disait, vous racontez pas l'histoire de Yoda.
Mais pourtant, il y a quand même eu un truc. Enfin, moi, j'avais lu des trucs.
Rien sur son passé, non. Pardon, sur ses origines.
Ouais. C'était pour le voir faire le tourniquet avec son sabre laser dans l'épisode 2. C'était important de garder ça en main.
Et savoir d'où vient cette petite canne.
Et du coup, si, après, bah, du coup, c'était après que Disney a racheté Lucasfilm, bah, le 25 avril 2014, date grave à la pierre blanche, la date de l'apocalypse. C'était Disney annonce qu'ils vont totalement abandonner l'univers Legends pour leurs nouvelles histoires et que du coup ils vont créer un nouvel univers.
Bon, nous, c'est ça qui est devenu Legends en fait.
C'était oui, ça, ça a été rebaptisé Univers Legends et ça, bah, enfin, c'est encore un jour très triste pour moi. Enfin, parce que ça arrivait à une période où moi j'étais vraiment à fond dedans. Pendant un an, je vivais Star Wars. J'avais lu une trentaine de bouquins en un an. C'était
toutes les BD, les machins, tout ça.
Je lisais surtout des livres, ouais.
Les livres, ouais.
Et bah oui, je lisais tous les livres qui se passaient justement après le retour du Jedi. Du coup, moi, j'étais vraiment à fond dans cette histoire. Et enfin, du jour au lendemain, on me dit bah tout ça, c'est jeté à la poubelle. Ça m'a fait très 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 mal. Ouais. Et
finalement, c'est peut-être mieux que Disney.
Oui, mais bien sûr. Mais en fait, là, j'ai eu un deuil en fait. Hein. Au début, c'était la colère. Je n'acceptais pas. Ouais, j'ai eu toutes les étapes du deuil. Et après, au final, aujourd'hui, je suis oui. Bah, en plus, c'était mieux qu'ils fassent ça parce que pour soi-disant qu'ils soient pas bridés. Alors quand bon, au final, on va se.
Du coup, au final, c'est. En fait, ils ont fait. Si je comprends bien, ils ont fait ce que Lucas disait en fait. Lucas disait en fait. C'est pas Lucas là. George Lucas disait que. Bref, il disait oui, vous faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où je reviens, on dit que ça n'existe pas. C'est ce qui s'est passé en fait.
Oui, oui, bien sûr. Sauf que c'était pas George Lucas qui a dit ça. Du coup, c'était des autres personnes. C'était. Mais et voilà. Puis bah du coup, si vous, là, je pense avoir présenté plutôt bien ce que ça voulait dire l'univers étendu. Après, si des gens veulent plus d'informations, je peux vous recommander un site qui s'appelle starwars-universe.com. C'est un site de fans de Star Wars qui est hyper bien documenté. Enfin, ils font un travail de dingue avec une encyclopédie qui présente tout, qui documente toutes les œuvres qui sont sorties. C'est vraiment pas mal. Et si pour vous introduire à cet univers étendu, je peux vous recommander des œuvres qui sont par
exemple. Si jamais,
oui, moi je peux recommander des œuvres. Par exemple, déjà La Croisée Noire du Jedi Fou, ça c'est une trilogie qui est vraiment fondatrice. Enfin, on ne peut pas commencer l'univers étendu, je pense, sans lire ces trois livres-là.
Donc, ça c'est les livres de Timothy Zahn.
Oui, qui sont sortis. Enfin, c'est la première fois qu'on a commencé à parler d'univers étendu, c'est avec ces livres-là. Il y a un livre qui s'appelle Dark Plagueis, qui était écrit par James Luceno, en fait, qui raconte. Dark Plagueis, je ne sais pas si ce nom vous évoque quelque chose.
C'est celui qu'on pensait être Snoke.
Non, c'était Palpatine en parle dans La Revanche des Sith en disant que
oui, c'est ça, ouais,
c'était un grand maître Sith.
C'est pas le mec qui est ressuscité dont il parle à l'opéra là.
Oui, c'est quand il parle à Anakin.
Il parle à un petit peu. C'est qu'il y a une théorie à un moment comme quoi Snoke était peut-être.
Oui, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui essaie de maîtriser la force pour pouvoir rester immortel et sauver de la mort. Et du coup, c'est pour ça que ça aspire Anakin pour sauver Padmé qui pensait qu'il allait mourir. Enfin, ça, c'est en fait, du coup, c'est un livre qui se passe avant La Menace Fantôme qui raconte l'histoire de ce type. Et en fait, c'est un livre qui est intéressant parce que ça mélange beaucoup de politique et de Star Wars. Pour moi, en fait, moi, j'aime bien parler de ce livre comme la rencontre entre Star Wars et House of Cards. C'est parce que ça mélange beaucoup de manipulation politique et de mythologie Star Wars. Ça parle vraiment de ça, et ça permet aussi de un peu mieux aimer les midi-chloriens. Ce mec a tellement bien compris, mais maîtrise tellement bien l'univers qu'il a essayé d'apporter une justification à ça qui passe bien. Du coup, si vous détestez les midi-chloriens et que vous voulez vous faire une petite raison, enfin, essayez de mieux les aimer, lisez ça.
C'est l'avantage de ces trucs de l'univers étendu, en fait, c'est que ça. Ouais, t'essayes d'apporter des réponses.
C'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, avec l'univers étendu, ils ont vraiment laissé des gens qui avaient vraiment compris ce qu'était Star Wars, comment fonctionnait Star Wars, faire ce qu'ils voulaient.
Des gens qui venaient de l'extérieur, un peu comme. Sur les comics ou tout ça, quand on a fait appel à un auteur pour qu'il s'approprie tel personnage,
qui faisait faire ce qu'il voulait et sortir des œuvres géniales malgré que c'était différent, parce que même si c'était différent, ça restait Star Wars, qu'ils avaient compris comment marchait l'univers. Pour ça, il y a aussi un jeu vidéo, c'est Star Wars KOTOR, c'est-à-dire Knight of the Old Republic, qui se passe durant l'Ancienne République, soit genre 30 000 ans avant l'épisode 1. Ouais. Et c'est un RPG avec un scénario absolument dingue et un twist fou à la fin. Moi, je me suis pas toujours parmi de ce qui se passe à la fin.
Je pense que c'est le jeu Star Wars auquel il faut.
C'est le jeu référence. Je sais pas si vous le connaissez, mais. Ouais. Ensuite, il y a une saga de livres qui s'appelle Le Nouvel Ordre Jedi. Enfin, c'est vraiment une saga monstre de 19 tomes. Et en fait, avec cette saga-là, ce qu'ils ont voulu dire, c'est ça se passe, je me dis, 15 ans après le retour du Jedi. Et ce qu'ils ont voulu amener, c'est bon, l'Empire, toujours les méchants qui essaient de revenir, tout ça, on en a marre. Là, ils décident d'amener un nouvel ennemi qui vient de l'extérieur de la galaxie Star Wars, qui s'appelle les Yuuzhan Vong. Enfin, pour dire ils voulaient vraiment faire, c'est exotique, ça vient de l'extérieur, on connaît pas. Et c'est aussi une saga en fait qui, à travers 19 tomes, crée une nouvelle génération de héros qui seront notamment les enfants de Luke, Yann et Leila. Et c'est pendant tout au long de ces 19 tomes, c'est vraiment ça passe, ça transmet le flambeau, ça transmet une nouvelle génération, tout en introduisant un nouvel ennemi du coup qui est différent de l'Empire. Et quoi, c'est vraiment un fleuve à lire qui est assez hallucinant.
Est-ce que t'es pas en train de nous dire que finalement, si on s'était plus inspiré de ces livres plutôt que de les jeter, on aurait peut-être eu des bons films?
Exactement. Merci, Bastien.
Il y a aussi le fait que, concrètement, ce qui est marrant, c'est quand tu parles de tout ça, c'est que, effectivement, si t'es pas satisfait par ces nouveaux films ou même par la prélogie, j'imagine qu'il y a eu de l'univers étendu avant la prélogie qui couvrait un peu aussi cette période-là. Et que du coup, finalement, Star Wars est devenu tellement vaste que concrètement, tu peux plonger dans des versions qui t'intéressent plus que les versions officielles en dehors de la trilogie originale et que tu peux y trouver ton compte, quoi.
Oui, bien sûr, parce que ça foisonne, en fait. Il y a plein de choses différentes. Il y a aussi une série de comics qui s'appelle Star Wars Legacy, qui se passe plus de 100 ans après la trilogie originale, qui raconte la destinée d'un descendant de Skywalker qui est un junkie, qui est addict à la drogue. Et c'est vachement intéressant. C'est super à lire. Et après aussi, je peux citer... Par contre, je voulais pas... Peut-être que Luc après soir en parle. Attention,
parce que Luc va s'énerver.
Le Clone Wars de Tartakovsky, qui est une série animée qui est sortie juste avant l'épisode 3. C'est d'ailleurs l'animé qui a introduit Grievous, c'est la première fois qu'il apparaît dedans. Mais ça, c'est juste brillant. Enfin, je te laisse la parole dessus.
Non, il se moque de moi parce que j'aime beaucoup.
Parce que c'est vachement bien aussi.
Ouais, parce que c'est extraordinaire. Parce que pour le coup, tu parles d'un mec qui... Enfin, vous parlez de gens qui viennent de l'extérieur et qui s'approprient le... Bon, là, il était quand même drivé parce que c'était quand même Lucasfilm. Et ouais, donc ce que tu disais, c'est que George Lucas...
On va passer sur cette blague, s'il vous plaît.
On est d'accord déjà, qu'on met de côté... Enfin, là, on parle de l'univers étendu, de ce qui appartient à Lucasfilm et ce qui est...
Bah oui,
genre
oui,
on peut pas, on parlera pas de Robot Chicken qui se moque, de Star Wars, enfin qui le pastiche.
Non, c'est pas inclus dans la chronologie.
Qui rend hommage. Non, bien sûr. Parce que c'est des trucs qui appartiennent, enfin qui parlent de l'univers de Star Wars et qui sont assez extraordinaires. Mais non, ouais, Clone Wars de Tartakovsky, c'était une commande. Hein. C'était Lucasfilm qui avait demandé à Tartakovsky de réaliser deux saisons, enfin une ou deux saisons, pour faire le lien entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et Tartakovsky était très content parce que je suis même convaincu qu'il aime quand même Star Wars. Et c'est surtout aussi parce qu'il lui avait fait miroiter à l'époque quand même un poste, dans mes souvenirs, un poste important chez Lucasfilm et qu'il allait un peu devenir le John Lasseter, enfin ce qu'a fait Disney avec Lasseter pour Pixar, et qu'il allait avoir un poste plus important et que peut-être qu'il pourrait développer d'autres choses derrière. Enfin, Tartakovsky se fait toujours enfler hein, chez Lucasfilm, chez Sony, Popeye chez Sony, etc. Et du coup, il y a quoi? Attends, combien de saisons? Deux saisons.
Tu regardes ça limite comme un film.
Hein, ouais, comme un film de 2h15. Enfin, c'est des épisodes de 1 minute 30 à 3 minutes. Il y en a une quinzaine. Et puis dans la deuxième saison, il y a quoi? Il y a 6 épisodes de 12 minutes ou quelque chose comme ça. C'est très très court et très très dense. Et à chaque fois, effectivement, il centre ça autour de un ou deux personnages. Pour moi, il comprend Star Wars parce que c'est aussi le génie de Tartakovsky dans l'animation. C'est qu'il y a très peu de dialogue. Tout passe par le visuel, hein, l'horizontalité des images. Et c'était complètement pas bête d'ailleurs de la part de George Lucas de proposer à Tartakovsky de faire ça, parce qu'au final, comme il avait fait Samurai Jack avant, il s'était dit que Samurai Jack, sabre laser, enfin c'était complètement... Non mais oui,
du coup, ça match.
C'était ça match. Moi, ça passe, le côté
champ. J'ai vu Clone Wars, mais j'ai toujours entendu dire que parmi, si ce n'est les meilleures scènes de...
Clone Wars.
je sais. Mais non, mais j'ai souvent entendu dire, et vous allez peut-être confirmer mes dires, que peut-être les meilleures scènes de combat de Sam de tout l'univers Star Wars sont dans Clone Wars, en fait.
Mass Windu qui fait face à une armée de 1 million de droïdes et qui les débite.
Enfin, non, justement, parce que là c'est l'exemple contre exemple. C'est-à-dire que c'est quoi, 2 minutes 30 de l'épisode, c'est un peu un spoil, mais c'est effectivement un petit fermier sur une planète qui est là, qui est tout seul. Il entend du bruit, il monte sur la colline, et là, il voit l'Empire qui arrive et qui se retrouve tout seul face à Mace Windu, qui perd son sabre laser. Dans les souvenirs, non ? Il perd son sabre laser et il fait tout avec la force, justement, quasiment son sabre laser, et il défonce tous les droïdes, donc les droïdes qu'on voit sur Naboo, etc. Là, les droïdes, bah, déjà un peu teubés à l'époque, là, qui sont, je connais plus le modèle. Ouais, voilà, ceux de la Fédération de commerce, exactement, et qui les détruit un à un. Mais ce qui est fou dans cette séquence-là, j'en ai des frissons, on vient d'en parler, c'est qu'on se retrouve, nous, enfants, dans le personnage du gamin, en train d'être face à une idole, et il n'y a pas une ligne de dialogue, et ça se finit sur le gamin qui va voir Mace Windu, qui est torse bombé, et lui donne à boire dans sa gourde. Tu vois, genre, c'est vraiment tout pour moi, la force, les combats, les lasers, les sabres, le côté idole, etc., iconique. Puis il y a ça, et puis il y a le combat entre Mace Windu et Grievous. On comprend pourquoi Grievous, il a un petit peu, il a un peu du mal à respirer. T'as le combat face à Khajiit,
entre
Anakin et Asajj Ventress, sur Yavin 4, justement, la base, etc. Et c'est des choses, il y a de la poésie qui naît dans des petites séquences, etc. Et c'est magnifique. C'est bien mieux que Rebelle, c'est tout ce qui s'est fait.
En fait, pour pas que les gens confondent, il y a eu aussi une série Clone Wars qui est sur Netflix. Je ne sais plus si elle y est toujours, je pense.
Sur le truc de Tartakovsky,
c'est de la 2D, en fait. C'est du dessin animé, là où ensuite c'est devenu de l'image de synthèse.
Mais il y a Clone Wars en 2D, pas par Tartakovsky. Après, il y a Tartakovsky qui a fait deux saisons, mais si je dis pas de bêtises, Clone Wars, c'est eu quelques petites saisons, genre saison 3, 4, 5, 6, avant que ce soit en 3D, après, non ?
Après, ça me
semble ça.
Ça me dit absolument rien.
Et après, il y a eu Rebels, et après.
Non, moi, il me semble qu'il n'y a eu que Tartakovsky, mais après, il y a eu le film animé.
Tu m'as peut-être eu. Après, oui, il y a eu le film. En fait, le film, en plus, c'est même pas vraiment. Non, mais c'est même pas un film, c'est les 3 premiers épisodes, 3-4 premiers épisodes de la série, mis bout à bout. Vas-y, on met ça au cinéma.
C'est une série en 3D, du coup. Cette série en 3D, c'est les designs des personnages sont inspirés de ce qu'a fait Tartakovsky en 2D.
De toute façon, viennent du Clone Wars. Je vais arrêter de dire son nom parce que c'est un manque de respect.
Gendy
Tartakovsky. Du mec.
De ce monsieur.
Et même après, c'est un peu George Lucas qui se ramène et qui chie dessus aussi, ça qu'on comprend pas. Après, bah, pour conclure mon truc, parce que après, du coup, forcément, Disney ont lancé leur propre univers étendu, que j'ai essayé, que j'ai tenté, que j'ai arrêté, parce que c'est de la merde. Mais. Non, bah là, du coup, si je peux recommander deux bouquins qui marchaient vraiment bien, parce que encore une fois, c'est quand ils s'essayent de raconter des histoires en testant d'autres genres. Bon, bon, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, les deux bouquins que je recommande, c'est la même femme qui les a écrits, qui s'appelle Claudia Gray. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Étoile perdue, qui est un roman du genre young adult. Enfin, young adult, c'est le truc maintenant qu'on parle quand on parle d'un Hunger Games ou de Labyrinthe ou des machins comme ça. Mais ça, c'est un roman qui raconte une histoire d'amour impossible entre une pilote rebelle et une femme de l'Alliance Rebelle et un mec de l'Empire, et qui va jusqu'à Un Nouvel Espoir, jusqu'à l'épisode 7, et qui est, qui est hyper efficace, qui marche très bien. Et ensuite, un autre bouquin qui s'appelle Bloodlines, qui se passe 6 ans avant Le Réveil de la Force, et qui est centré sur Leila. Et c'est un bouquin qui parle de politique et du contexte politique de la galaxie à ce moment-là, à travers Leila. Et du coup, si vous trouvez que l'épisode 7 manque de. Si vous ne savez pas ce que c'est Apex, si vous ne savez pas quelle planète ils ont cassé dans ce film-là, clair, ouais. Bah, lisez ce livre. Et pour moi, c'est les deux seuls trucs bons qui sont sortis, parce que tout à l'heure, Lucas a parlé de Star Wars Rebels, qui est un truc que je trouve lamentable, mais
c'est moche, en soi.
C'est un truc pour, enfin, même pour un gamin, je trouve ça offensant, en fait, tellement c'est débile. C'est moi, je trouve ça vraiment horrible comme truc. Ça ne raconte rien, c'est complètement bête.
Il y a beaucoup de gens qui regardent, hein, moi, genre, ouais, en fait, qui est fan, qui rentre de soirée à 2h du matin, il fume un pet, il regarde 3 épisodes, et il est à jour.
Je comprends rien, ce que ça raconte, ce que ça va nous raconter sur l'univers, c'est vide, et enfin, voilà, moi, ça, c'est ça, ça m'énerve.
On y touche pas.
Voilà, s'il vous plaît.
Une petite recours rapide, Bastien. Je t'ai pris de court.
Oui. T'as pas fait ta recommandation ?
Une petite recours rapide.
J'ai pas préparé ma. Petit classement de nos épisodes préférés ?
Ah, si vous voulez, si vous préférez.
Ouais, c'est mieux. Histoire qu'on se tape dessus.
Alors, t'es chaud, Bastien, pour son classement ?
Oui, alors. On commence du meilleur au pire ou
C'est comme ça le classement, généralement.
Bah, oui. Non, c'est pas une remise des diplômes, du moins bon au meilleur.
Non, oui, fais pas de suspense, dis-nous du meilleur au pire.
Sans grande surprise. Non, je veux dire l'épisode 4. Parce que l'épisode 4. Parce qu'il est. En termes d'écriture, c'est un film que je trouve assez parfait. Scénaristiquement parlant, vraiment. Merveilleusement bien écrit et qui a mis en place du coup cette saga formidable
qui a changé le monde,
n'ayons pas peur des mots,
juste ça
Et donc je les fais tous, on les fait tous. Je dis pas de mots pour les autres, je fais juste un name dropping. Du coup, d'après forcément l'épisode 5, puis l'épisode 6, puis après on va faire un petit 3, 1, 2. Et là, mon cœur balance. Donc je vais le mettre à égalité. Le 7 et le 8. Voilà.
Et Rogue One ?
Hey, Rogue One ! Pardon, je l'ai oublié, Rogue One. Non, Rogue One, nul. J'ai pas aimé Rogue One. Mets-le à la fin. Mets-le là, derrière. Là, il est bien, ouais. Allez, avant. Juste avant. Après le 1.
Voilà, si vous avez compris le classement de Bastien.
Démerdez-vous. Je vous laisse, voilà. Envoyez-moi sur Twitter si vous avez bien compris ce classement, que moi, au moins, je l'ai de visu pour voir à quoi ça ressemble, parce que moi, je n'ai pas compris non plus. Merci.
C'est le bordel.
Thierry, ton classement, que tu as amoureusement noté avec le stylo courte paille.
Sur ma main. Parce que j'avais peur de me courir. Pour moi, c'est le 5. Parce que j'aime bien le développement des personnages, j'aime bien tout ce qui se passe entre eux. J'aime beaucoup. Toute la direction artistique, j'aime beaucoup la marionnette de Yoda que j'ai vue en vrai un jour et que je trouve que c'est un personnage formidable quand on apprend à le connaître comme ça, un peu mine. Ça, c'est le truc qui me fait rire. J'aime beaucoup comment elle est. J'aurais rêvé de vivre la bataille de Hoth.
J'ai entendu mine and nine.
Ouais, voilà, moi aussi, merci. Ça sonnait un peu Troisième Reich.
Non, c'est mine avec un M.
Yoda, bin ish, yeah.
Non, Adolphe, c'est dans le 7 avec General Hux. Non, j'aurais vraiment rêvé de vivre la bataille de Hoth, que je trouve formidable. J'adore les AT-AT. Voilà. Ensuite, si je fais le name dropping, il y a le 4. Là, je vais me faire taper parce que j'ai mis le 7 en troisième position.
Il y a juste Quentin qui est en train de s'étouffer.
Avant le 6, parce que le 6, je le trouve... le mot qui me vient, c'est vide, mais c'est pas tellement ça. C'est juste que j'ai l'impression que ça raconte plus trop grand-chose à partir du moment où ils sont avec les Ewoks, même si les Ewoks me dérangent pas. Et après, j'ai mis le 8. Je sais pas où mettre Rogue One parce que, bizarrement, il m'a pas plus intéressé que ça, en fait. J'ai trouvé que c'était un bon film, mais... Voilà, il ne m'intéresse pas. Et je ne parlerai pas des 1, 2, 3 parce que voilà.
Donc pour toi, tu ne les classes même pas ?
Non, enfin, si je devais vraiment les classer, je dirais le 1 en premier parce que j'adore la course de pod et le 3 ensuite. Et le 2, je ne veux même pas en entendre parler. Parce que rouler dans les pâquerettes, ce n'est pas un Star Wars.
D'accord, très bien. Je ne pensais pas qu'on l'entendra un jour. Lucas, répasse ça.
Ce que tu dis, c'est juste, mais quand je sortais du film avec William, je me disais que. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la prélogie, en fait, je parlais de musique, je trouve les thèmes un peu, je trouve le travail de John Williams, Jack Ino un peu super décevant, à part le thème de Rey sur le set, mais dans la prélogie, il y a des thèmes. Duel of the Fate,
et Duel of the Fate, ça défonce.
Across the Star, le. Tu vois, moi, je chiale, j'entends ce morceau-là, je suis chade.
Bon, fais ton classement, Lucas, arrête de nous faire chier.
On veut tous aller se coucher, Lucas.
Attends, je change juste le classement. Pour les mêmes raisons que toi, les AT-AT. La neige, je mets le 5 parce que je le trouve.
Lucas n'a jamais vu la neige.
Ouais, non, mais je suis jamais allé au ski, on est déjà. Donc je voulais voir la deuxième étoile au cinéma tout à l'heure. Et donc je mets le 5 en premier. Je mets le 5 en premier, après je mets le 4. Après je mets le 1. Après je mets le 3, le 6, le 8, Rogue One, le 7 et le 2.
Putain, on a le même classement, pardon.
C'est vrai ?
Ouais, sauf le premier, je crois que j'ai fait 4 et 5.
Parce qu'en fait, au final, avec beaucoup, beaucoup de recul, les années passent, et la prélogie, je suis quand même attaché. La scène de massacre, enfin, de la scène avec Yoda, avec l'ordre, je trouve ça vraiment fort dans ce que ça raconte. Et là, je me dis, on parlait du 8, je pense à des trucs super cons, mais genre même dans le Retour du Jedi, que je trouve pas ouf, la séquence où il va se faire... il est au-dessus du vaisseau, il va se faire dévorer par le...
Banta ? Oui, non.
Le ver dans le désert. Là.
La créature qui a juste sa bouche qui est sur le sable. Là, voilà.
L'anus du désert.
Où il est de mèche avec R2 qui lui envoie son sabre, etc. Du ?
Le sarlac, merci.
Ah, oui, le sarlac. Le sarlac où il est de mèche avec R2 qui lui envoie son sabre, qui fait la pirouette, etc. Je me rappelle que gamin, je la regarde aujourd'hui, je suis plus ému dans cette séquence-là. J'ai plus de frissons dans cette séquence-là que dans toutes les situations pseudo-épiques du dernier. Tu vois, c'est con, mais au final, j'étais plus.
Je pensais que j'ai bien fait de pas faire de quiz Star Wars parce que vous seriez fait fumer.
Nous ? Mais crois pas, là, on fait semblant parce que il est un peu tard et qu'on est un peu fatigué. Mais vas-y, balance des questions.
Non. Jean-Victor.
Je vais faire rapidement. Le premier, pour moi, c'est forcément le quatrième, parce que c'est un film qui a posé tellement, en fait, et on s'en rend plus trop compte aujourd'hui, mais c'est assez marrant de le voir avec des gens qui ne connaissent pas Star Wars, oui. Et qui hallucinent toutes les trois minutes.
Ouais, ah bah moi je les ai fait découvrir à ma copine qui, à l'époque de la sortie du 7, n'avait jamais vu Star Wars. Et c'était assez hallucinant de voir sa réaction devant les films originaux. Je lui ai montré que la trilogie et en plus les versions despecialized sans les effets spéciaux qui ont été rajoutés derrière. Et en fait, c'était dingue parce que vraiment, toutes les 3 minutes, tu étais, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? Et c'est vraiment, en fait, quand tu vois la boîte de Pandore qui a été ouverte par ce film, c'est hallucinant. Et j'adore le 5 aussi, que je mets juste derrière, mais le 5 ne fait que finalement que surfer brillamment et très bien avec une écriture vraiment en béton armé. Mais voilà, je trouve que le 4 en premier parce qu'il a posé un truc monstrueux. Donc si je devais faire l'ange, je mettrais 4 en premier, ensuite 5, 6. C'est pas les films que j'aime bien, mais je pense fondamentalement que le 3 et le 1 ont peut-être plus de choses à garder que les nouveaux. Donc je mettrais 3, 1, Rogue One, 7, 8, 2. Voilà. Okay.
Les deux,
ils sont... Oui, l'attaque des clones est une merde sans nom. Je crois qu'il n'y a pas débat, c'est à 3.
Ah, tu préfères le 7 ou 8?
Je mets un signe égal entre les deux. Parce que les deux m'en touchent une sans faire bouger l'autre fondamentalement. Donc,
Ok. Quentin, tu l'as donné ton 3? Non,
absolument pas.
Ah bah vas-y, Quentin, excuse-moi.
En fait, je l'ai fait à l'instant sur mon téléphone.
Il a gagné du temps.
Ouais, alors bah du coup, moi, je vais peut-être être pas pareil que vous. Mais moi, je mets La Revanche des Sith en premier, l'épisode 3, wow. Parce que j'adore ce film. Enfin, en fait, déjà, pour moi, un des gros points forts, c'est Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. C'est typiquement l'humour qui marche avec George Lucas quand il enfile l'humour dans Star Wars. Ouais. Et pourquoi ça marche pas chez Marvel, enfin, parce que l'humour vient du personnage, il tombe pas du ciel comme ça.
Mais là, c'est le flegme, vraiment. Là, genre, c'est plus que n'importe quel autre personnage.
Il est logique, l'humour, il est cohérent. Après, je mettrais l'Empire Contre-Attaque, après... Enfin, faut dire les numéros, les...
Bon, tu vois, comme tu veux.
Bah, 3, 5, 4,
tu te moques. Bah, du coup,
non, pas du tout. Bah, je fais l'humour méta, comme dans... Bah, c'est bon, c'est comme ça que ça marche maintenant. Hein. On peut rigoler que comme ça. Bref, bah, du coup, le 3, le 5, le 4, le 6, le 2, le 1... Rogue One, et après entre le 7 et le 8, je sais pas quoi mettre en dernier.
Le 2 est vachement ouais, dans ton classement.
Tu mets au milieu quand même.
Ouais, moi le 2, bah non, mais je suis d'accord qu'il y a des trucs horribles hein, dans ce film, mais
je trouve.
Oui, j'aime pas le sable. Et le mec, il aime pas le sable, tu sais, ça devait être un Dark Vador, quoi. C'est tout ça que je sais. Il fallait pas l'emmener à la plage. Hein,
en même temps, oui, Dark Vador, le sable, je pense qu'il aime pas trop.
De là à tout renverser, à dominer le monde, c'est bon, on peut en parler. Ouais. Et après, ouais, le 7 et le 8, je sais même pas quoi dire, en fait, comment les départager, parce que. Autant le 7, je déteste ce film, mais j'ai envie de dire c'est juste du conservatisme, du nostalgique à la con, que c'est bête. Mmh. Alors qu'après, le 8, comme disait Bastien tout à l'heure, qui porte un message qu'on trouve assez effrayant, du coup, je sais même pas, 7 et 8 derniers, et on laissera le temps faire le classement plus tard.
On laissera le 9, 10, 11, 12 faire leur ouvrage.
Oh là, bah ça, moi, je pense que là, je ferai un autre classement pour ça.
Et donc toi?
Ah, moi, comme je disais, mais bon, j'ai quasiment le même classement que Lucas, c'est le 4, parce que, bah, pareil, pour tout ce qu'on a dit, côté poser un truc, enfin, il y aurait, c'est quoi à dire, mais il n'y aurait pas tous les autres. Enfin, voilà, c'est ça, c'est que c'est une étape dans l'histoire du cinéma, même. Le 5, parce que, enfin, les deux fonctionnent vraiment, enfin, c'est 4 et 5, c'est presque une dualogie, je ne sais pas comment on dit, mais. Un diptyque. Non, mais c'est vraiment le 4 et 5 qui fonctionnent de cheville, quoi. Et après le 1, parce que moi, je crois me souvenir que c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars, en fait. Je crois que j'ai vu le 1 d'abord.
La génération de la prélogie.
Non, mais c'est bah ouais, c'est aussi pour ça qu'on la classe.
On a grandi avec ces films-là.
Ouais. Sauf Cyril qui, elle, est lucide.
J'ai aussi découvert le 1 en premier. Et du coup, quand je me suis dit, je vais revoir Star Wars en étant un peu plus grande, le seul souvenir que j'avais, c'était cette course de pod qui m'avait rendu folle. Quoi.
Bah moi, c'était le duel à la fin. Quoi. Enfin, genre, vraiment le.
Je sais pas si vous avez vu la ressortie 3D de la Menace Fantôme, mais.
Bien sûr.
Elle glissait très bien, cette course de pod en 3D.
Voilà. Mais non, moi du coup, le 1, c'était vraiment histoire de dire, je mets le 4 et 5 avant, mais le 1, vraiment, c'est vraiment top 3. Quoi.
Est-ce que vous êtes un ange?
Wow. C'est toi en fait, Anaki.
On n'a plus de nouvelles d'ailleurs de ce monsieur.
De Chemie? Ah non, tu vois le gamin.
Jack Lloyd,
oui, il va pas bien.
Mais il est devenu violent.
Sur les internets. Hein,
je crois qu'il est à moitié alcoolique, dépressif. Il fait des tours en prison. Enfin bref.
Super, super. Bah bref, quoi, pense à toi, petit bonhomme. Toujours Anakin dans nos cœurs. Toujours le petit ange Anakin dans nos cœurs. Donc 4, 5, 1.
L'épisode 3, pareil, parce que je trouve que, en termes de transition, enfin, quand on y repense, quand on reparle du film, il y a plein de scènes, moi, que je, pareil, qu'on a, sur lesquelles on a beaucoup chié. Genre, moi, j'aime bien le combat Palpatine. Je m'en vais. Mais moi, j'aime bien. Dès qu'il y a un combat de sabre laser, de toute façon, enfin, je réponds plus de rien.
Anakin, il débarque et qu'il tue tous les gamins de tous les apprentis de Jedi. Il faudrait, moi, je trouve qu'il serait un truc.
D'ailleurs, c'était Snoke, le petit des Jedi qui a survécu.
Pour le coup, il y a une chance dramatique dans le 3.
Oui, bah, c'est
une noirceur que tu
trouves. Puis le combat final aussi, le combat. Bah, Obi-Wan Anakin, tu chiales quoi.
Une vraie évolution.
Sur Mustapha,
pas du tout dans le même état d'esprit au début qu'à la fin. C'est
Bah ouais, il fallait.
Enfin, moi, en termes de drame, je mets ça au niveau du pianiste quoi. Enfin, moi, je me sens mal devant cette scène, devant ce passage.
Ouais, c'est ça, et puis. Enfin bref, mais moi je trouve que c'est un combat d'amis qui se battent, c'est toujours presque plus. Enfin pour moi, c'est une relation d'amitié au cinéma, ça me touche beaucoup plus qu'une relation d'amour.
Tu étais comme un frère pour moi.
Et du coup.
T'es la lune.
Bref. Donc 3, après 6, parce que le 6, pareil, moi je trouve que c'est ce qui a lancé un peu le côté commercial et tout vraiment de Star Wars. 8. Pourquoi 8? Je ne sais pas. Mon avis a changé depuis que je l'ai noté. Enfin, bref,
depuis le début du podcast.
Non, mais 8, parce qu'il y a quand même des fulgurances visuelles. On en a beaucoup parlé, mais on a. Enfin, ouais, il y a des moments dans le film. L'explosion à la fin. Sans le son.
Ah
là,
oui,
En vitesse lumière.
Sans le son, c'est vrai que ça passait bien, mais voilà, faut trouver
relique. C'est vrai que c'est pas.
Hein? De quoi?
Non, cette scène, elle est bien, c'est juste qu'elle arrive beaucoup trop tard, en fait. Ah, le public a récupéré la blague de Lucas, c'est bon.
Mais, ouais.
Ma blague t'a traversé comme
la vitesse lumière.
Il l'a chopé derrière.
Et Rogue One que je préfère au 7 en ayant revu ma copie pour aller voir le 8. J'ai revu le 7 et Rogue One. Et ouais, Rogue One est vraiment. Enfin, il y a plein de défauts, hein, mais.
Le casting?
C'est un défaut ou c'est bien?
C'est un défaut.
Ah non.
Oui, les acteurs ne font pas exister des personnages qui sont intéressants en fait.
Ah ouais, mais pourtant c'est. Ouais,
Diego Luna et tout.
Oui. Bah, même Felicity Jones, moi j'aime pas.
Everest Whitaker! You know? Lies!
Non, mais ouais, il y a plein de problèmes, mais pareil, le gigantisme et tout dans ce film, à chaque fois que je vois, je trouve les effets d'échelle et tout.
Ouais, enfin, l'étoile noire qui sort du ciel.
Tu vois le petit TIE Fighter, le Crusader, et après l'étoile noire et tout, tu dis, ah ouais, en fait, c'est ça l'étoile noire, c'est une planète.
On la voit monter dans le ciel de.
Ouais, dans l'horizon, ouais, ça c'est.
Voilà, ouais.
C'était ma photo de couverture Facebook pendant 2 mois.
Et 2 mois sur Facebook, ça veut dire longtemps. Après le 7 et puis l'épisode 2, parce que le 2, je savais pas où le foutre, donc je l'ai mis à la fin, mais voilà.
C'est tout ce qu'il mérite.
C'est tout ce qu'il mérite.
Voilà. On roule pas dans les pâquerettes, bordel.
Oui, c'est ça. Les pâquerettes, c'est pas Star Wars. On roule pas dans les pâquerettes, c'est pas Star Wars. C'est sur cette phrase qu'on va se dire au revoir, quand même, parce qu'on a exposé les. Ah, quand même. S'il y a bien un moment où il faut applaudir, c'est là, quand même.
15 jours
j'ai une barbe comme ça, j'ai 3 gosses depuis le début de cette émission. Ah,
paraîtra moins longue que les 2h30 des derniers Jedi.
Ça c'est bien, c'est déjà ça. Bon, on va se quitter là-dessus. Où est-ce qu'on peut vous retrouver rapidement, Bastien? Sur Twitter, en prison, d'après la famille de Bastien, donc c'est quand même
tout est dit. Sur Twitter, oui, je m'appelle Bastien Rénal. Bastien _ Rénal. C'est hyper compliqué en fait, faut que je change de pseudo. Merci à tous.
D'accord.
Voilà.
Quentin, dis-nous où on peut te retrouver.
Moi, sur Twitter également, mais à part retweeter des trucs de gauche ou de François Ruffin, je fais pas grand chose, alors ne venez pas.
C'est bien déjà. C'est bien déjà, merci patron.
Waouh! Ouais.
Cyril, dis-nous, rappelle-nous.
Alors, moi, c'est Episnokis. Alors, j'imagine qu'on mettra mon pseudo dans la description, parce que si je vous l'appelle, ça va être la merde.
Ouais, on fera un copier-coller, ça ira plus.
Les lotos de Casson Trilogie.
Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube grâce à mes critiques de jeux vidéo et mes émissions Talking Stage, où on fait des débats d'une heure sur des sujets de médias et de pop culture. Mm-hmm. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma petite page Facebook, où je mets un peu plus d'actualité et je parle un peu de cinéma. Et vous pouvez me retrouver, pour le côté cinéma aussi, dans le cinéma des potes.
D'accord.
Une chaîne YouTube, voilà, avec une bande de joyeux lurons.
C'est
voilà.
Une bande de potes, quelque part.
Voilà,
comme
c'est
dans le titre.
Où on donne nos.
Tu es indécrottable.
On donne nos réactions à chaud sur les films, donc c'est un exercice qui n'est pas très facile et qui n'est pas forcément aimé par tout le monde, mais je trouve que c'est assez intéressant.
Ah bah on l'a tenté là, et puis
les gens
seront leur avis. Hein. Merci beaucoup.
Bah de rien, et merci à vous.
Eh ben oui, ben merci d'être venu surtout. Enfin bref, on se remercie.
Voilà, c'est bisous, bisous quoi.
Lucas, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Putain, moi on peut me retrouver sur Twitter, c'est le Barberousse. Mm-hmm. Sinon parfois j'écris avec des copains sur un site qui s'appelle Cinématrack.
Ouais.
Sinon je prends souvent la ligne 3 et la ligne 2.
C'est bien.
Même si je me déplace globalement à pied, mais voilà.
C'est bien.
C'est à peu près ça.
T'as un abonnement Vélib? Ouais. Jean-Victor,
moi on peut me retrouver à l'écrit en vidéo sur cloneweb.net, alors qu'il y a un site, je vous préviens, si vous allez voir les critiques des derniers Star Wars, c'est tenu par des gros fans, donc c'est pas moi qui ai écrit les derniers trucs sur Star Wars, hein, je précise.
CloneWeb à cause de l'attaque des clones, l'épisode 2. Hein,
ça s'appelle littéralement CloneWeb, en plus à cause de l'attaque des clones, mais ça faut pas le dire. Et donc sur CloneWeb en vidéo et à l'écrit, et on fait un podcast tous les mois qui s'appelle Happy Hour, où on débat aussi de pop culture et de conneries.
Très bon podcast.
Fortement.
Autour de bière, ici, comme ici.
Ah bah oui. J'espère que t'en enregistres pas trop en même temps dans la semaine. Parce que...
C'est un calvaire, j'en peux pas.
Bah, bois du coca.
Quel intérêt.
Bah, quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter de temps en temps. Voilà, William Cotin.
T'as le même problème que moi.
Je vais tellement pas sur Twitter que je crois que c'est mon nom, mon Twitter. Ouais, c'est at William Cotin.
Je crois que c'est genre at Cambis.
Ah oui, c'est at Cambis, oui, tu m'as dit tout à l'heure.
On les mettra en description parce que sinon on n'a pas fini.
Et sur Sens Critique, toi, sur Sens Critique, tu nous as dit Quentin.
Sens Critique, ouais, je fais des trucs. Enfin, je note beaucoup. J'essaie d'écrire des critiques des fois, mais ça peut arriver de. C'est peut-être plus intéressant d'aller voir ce que je fais sur Sens Critique que sur Twitter.
Très bien. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris du coup.
Si vous n'avez pas François Ruffin,
ça risque de vous décevoir. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver du coup, La Contrebande, sur notre Twitter, @la_contrebande. On a réussi à avoir ce compte Twitter, je suis trop content, depuis la dernière fois.
On l'a certifié ?
Oh non, pas encore, mais on s'en chargera. Notre page Facebook, @la_contrebande aussi, c'est très simple. Abonnez-vous sur iTunes, au podcast.
Étoiles. Mettez les étoiles.
Voilà, non, les 5 étoiles.
Plus, des étoiles.
Tout le monde fait des signes d'étoiles dans les yeux, les étoiles. Les
stars.
5 stars, mais c'est pour le référencement, tout ça, voilà. Voilà.
On est des sous,
plein de sous. Non, même pas, c'est juste pour nous dire qu'on existe. Voilà, que vous mettiez 5 étoiles.
Après, donnez-nous votre avis. Plein de sous.
Oui, bah d'accord, oui, mais avant
de faire des lives.
Donnez-nous votre avis, surtout, on aimerait bien avoir des retours sur l'émission en écrit, en commentaire, tout ça. Voilà, des idées de sujets, parce qu'on n'en a pas. Voilà, merci beaucoup. Partagez cette émission si elle vous a plu aussi. Et puis on se retrouve très vite pour notre top de l'année, surtout. Le bilan de l'année 2017.
Et les pas top.
Et ça c'est beau.
Ça c'est beau.
Et ne roulez pas dans les pâquerettes.
Et ne roulez pas dans les
pâquerettes. Bon, c'est tout ce que tu prends à me dire, je vais me coucher. Cinéma, tu restes debout, toi. Assieds-toi. Et regarde ton enfant, toi.